Single Jungle, le podcast des célibataires.
C'est comme si en fait t'as plus personne dans ta vie, t'es plus rien. Alors que c'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est important de le dire aux gens, c'est pas parce qu'une personne te quitte que ça fait toi quelqu'un de moche ou quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de différent de ce que tu étais quand tu étais avec elle en fait.
Je suis Louisa Amara et j'ai créé Single Jungle, un podcast dédié aux célibataires. Nous sommes plus de 100 millions dans le monde. En France, l'INSEE estime qu'il y a 41,3% de célibataires, au sens juridique. En effet, les personnes divorcées, dépaxées, séparées, veuves ne sont pas comptées. Nous sommes donc très nombreux et surtout nombreuses. Pourtant, on nous répète que la norme, c'est le couple. Eh bien, ça n'est plus vrai. Dans ce podcast, je reçois des autrices, des auteurs, des expertes du sujet, mais aussi et surtout des célibataires qui nous racontent leur parcours. Ce podcast, c'est le vôtre. Bienvenue! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Single Jungle. Aujourd'hui, je suis avec Florian. Salut Florian!
Salut Lusa!
Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment je suis tombée sur Florian. En fait, c'était sur TikTok. Je pense que c'était en fin d'année 2023, sauf erreur. Dans ces eaux-là, je suis tombée sur des vidéos très drôles. Je vous mettrai quelques extraits. Et je me suis dit, mais lui, il parle de célibat, il parle de rencontres, il parle de cœur, de ce qu'il ressent. Et aussi, il a une particularité dont je vous parlerai un peu plus tard dans l'épisode. Donc, avant de rentrer dans le détail, comme d'habitude, on se situe. Donc, je commence. Je m'appelle Louisa Amara. J'ai 43 ans pour encore quelques jours. Bientôt 44, si Dieu me prête vie, comme on dit. Je suis une femme cis, hétéro, d'origine algérienne, donc racisée, algérienne par mes deux parents, kabyle par mon père, et je suis une femme grosse, et je suis pas en situation de handicap, et en termes de finances, je suis une transfuge de classe, ça veut dire qu'au départ, mes parents sont de la classe ouvrière, classe moyenne, et moi, par mes études, mon parcours, les opportunités, la chance aussi, et ben j'ai pu grimper, et maintenant, je suis cadre dans la communication, et je gagne plus de 2000 euros net par mois, ce qui me place dans la minorité de Français qui gagnent cette somme-là. Comme on est en période de forte inflation, je tenais à le préciser. Et oui, je suis célibataire, quand même. C'est single jungle, donc il faut le situer. Et je ne suis pas abstinente, parce qu'il y a encore des articles hein, que je vous mettrai en référence. Il y a des articles qui estiment que le fait que les personnes aient moins de rapports sexuels actuellement, il y a beaucoup d'études sur le sujet, c'est parce qu'il y a plus de célibataires. Et j'ai mis, mais à quel moment il y a une connexion entre les deux? Moi, je suis célibataire et je suis pas abstinente, en fait. Donc, voilà. On va avoir l'occasion de parler de ce sujet-là. Florian, si tu veux te situer, soit tu donnes autant de détails, soit moi, c'est comme tu préfères.
Je m'appelle Florian. Je suis un homme hétéro de 30 ans, célibataire également. En ce qui concerne mon métier, je suis opérateur dans une usine de métallurgie et je gagne moins de 2000 euros par mois. J'exerce ce métier donc depuis un peu plus de 5 ans. Effectivement, oui, comme tu as dit, on s'est connus grâce à TikTok. Bah là, pour l'instant, j'ai mis cet objectif de côté. J'ai totalement coupé les réseaux. Mais en tout cas, je voulais te remercier de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. Et j'espère te fournir un bon épisode.
Et tu peux peut-être préciser que moi, je suis à Paris, mais toi, tu n'es pas du tout à Paris.
Ah, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis de Hauts-de-France. Donc, j'habite un petit village qui s'appelle Glajon. Si certains situent, mais je ne pense pas. Donc, c'est un petit peu perdu. Il y a moins de 2000 habitants. Donc, c'est très petit.
C'est quoi la ville la plus proche?
Je pense que même la plus proche, personne ne va connaître. Mais aussi Valenciennes, peut-être?
Ouais, ça va, Valenciennes aussi.
Je ne sais pas si ça te parle, mais j'ai 1h20 pour Valenciennes, pour situer à peu près, quoi.
Ok, donc du coup, c'est important aussi qu'on ait des personnes qui viennent d'un peu partout en France, et même en francophonie. J'ai eu des personnes qui étaient à La Réunion. Et bah, si vous écoutez Single Jungle et que vous êtes francophone, et bah, votre parcours, il m'intéresse. On a aussi des personnes qui étaient au Québec. Bah, moi, j'aimerais bien avoir des personnes en Afrique francophone, il y a d'autres parcours très intéressants à creuser. N'hésitez pas à me contacter. Alors, Florian, je t'ai contacté aussi, outre ton immense talent sur TikTok et les réseaux, et on verra après pourquoi tu as coupé. Il y a un truc qui m'a marqué. J'ai pas su le voir tout de suite, mais c'est après, quand tu as fait des petites vidéos sur le sujet, qu'il y a des gens qui ont mis des commentaires en disant, mais oui, c'est trop ça. Et ben, c'est que tu as une ressemblance, semble-t-il, avec Captain America, donc le comédien qui s'appelle Chris Evans. Toi, t'es pas trop d'accord sur le fait que tu lui ressembles. Tu peux expliquer?
Pas du tout, mais vraiment, en plus, au début, j'ai eu ce commentaire une fois, et je me suis dit, ouais, Là, c'est une technique de drague très nulle de comparer à quelqu'un de très beau. Et ensuite, je l'ai eu 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et je me suis dit, merde, je me suis posé la question. Mais oui, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais effectivement, tu as raison, ça revient énormément de fois. Et à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas compris. Et quand je demande, tu sais, à des amis proches ou des gens qui me connaissent très bien, tout le monde me dit, mais non, pas du tout. Donc, mais peut-être c'est l'effet vidéo.
Franchement, tu prends juste une photo. Comme tu l'as fait, tu prends juste la tête, quoi. Tu prends sa tête et tu te mets à côté. Bon, après, il y a des fois où effectivement, il va avoir une barbe ou il n'en a pas, peu importe. Mais tu croises juste les deux. Il y a quand même, je te dis pas que c'est 99%, c'est pas copier-coller. Mais il y a un truc, il y a un air.
Je trouve pas, mais après, ça me fait plaisir parce que c'est quand même un très bel homme.
Bah oui.
Donc ça va. Je suis pas comparé à quelqu'un de, donc c'est cool. Mais c'est vrai que moi, je trouve pas du tout. Mais par contre, merci, quoi. C'est quand même gentil.
Ok. Et du coup, quand tu vois des commentaires, justement, notamment de femmes, puisque toi, t'es hétéro, qui te disent, ouais, je suis complètement d'accord, est-ce que tu vas plus loin? Est-ce qu'il y en a qui, peut-être, t'ont fait des propositions assez claires de rencontres?
Bah oui, c'est déjà arrivé, mais clairement, sauf une fois, parce que j'ai eu effectivement une relation avec une autre TikTokeuse pendant quelques mois.
Ouais.
À part cette fois-là où j'ai poussé le truc, les autres fois où, non, je dis non, je refuse poliment, mais ça m'intéresse pas, parce que, je sais pas, je suis toujours gêné par ce type de rencontre.
Mais pourquoi?
Mais je saurais pas l'expliquer. Par les réseaux, je trouve que c'est peut-être pas une bonne chose. Et parfois aussi, c'est une question de distance. C'est-à-dire que je suis contacté par une fille qui, par exemple, qui habite à 5 heures de route, ou plus parfois. Et tout de suite, t'as ce côté contraignant de, déjà que c'est pas simple, tu sais les relations. Donc, si en plus, tu ajoutes à ça le facteur route, bah, c'est vraiment trop compliqué, en fait, pour se lancer dans certainement des femmes très sympathiques, en plus. Mais il y a tellement d'inconvénients.
Ouais.
Que la plupart du temps, je dis, bah, ça va trop être compliqué pour moi à gérer. Autant aussi pour elle. Donc, autant ne pas poursuivre le truc et couper poliment, quoi.
Ouais, par contre, le fait que ça soit par les réseaux, tu trouves pas que c'est juste un moyen comme un autre de faire des rencontres?
J'ai fait quelques mois où j'étais sur les applications de rencontres, les Tinder, les Fruits, je sais pas si on peut citer les marques, mais voilà, ah, les classiques.
Ça, bah justement, toi, tu utilises, c'était Tinder, Fruits, et c'est tout ou il y en avait d'autres?
J'avais Appen aussi.
Ok.
Parce que ce que j'aimais chez Appen, c'est que justement, ils te montrent les gens que tu as croisés.
Ouais.
Je sais pas si tu connais un peu le principe de cette appli. En gros, quand t'es dans le même secteur que quelqu'un qui est sur le site, ça te l'affiche, en fait. Vous vous êtes croisés à tel endroit, telle heure. Et là, tu likes ou tu likes pas, on va dire.
Mais t'as fait des rencontres via ces applis-là?
Oui, un petit peu, mais ça n'a jamais rien donné. En fait, il y a plusieurs cas de figure. Moi, souvent, les femmes me demandent « qu'est-ce que tu recherches ?» Et je trouve que cette question, elle est difficile parce que tu peux pas dire « je cherche la femme de ma vie » parce qu'en fait, c'est tellement compliqué. Moi, souvent, je dis « je ne recherche rien de particulier. Je suis dans le principe de « on se voit ». Et on voit, de laisser juste les choses se faire.
Okay.
Et souvent, cette phrase, elle fait peur. On me dit, oui, tu cherches un plan cul, en fait. Alors que pas du tout. C'est juste que j'aime pas fixer des attentes et me dire, bah, je veux la femme de ma vie, je veux me marier. Je trouve que ça ajoute tellement de complexité, alors que ça peut être juste très simple. On apprend à se connaître, on se voit et on laisse les choses se faire. Et c'est tellement plus beau, en fait, que du départ, dire, je me fixe ça, 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 ça. Et mettre des pressions inutiles.
Merci pour cette explication. En fait, juste, c'est super intéressant parce que toi, tu as le point de vue d'un homme hétéro de 30 ans.
Et, certainement.
Et en fait, je vais te dire ce que les femmes en face, comment elles reçoivent ça. Et c'est documenté, tu verras. Il y a plein de filles, on est passé par là, et il y a plein d'articles sur le sujet que je mettrai en référence. En fait, le sujet, c'est que sur les applis, on n'a pas envie de perdre trop de temps et d'énergie à faire le tri sur tous les profils. Donc, on est obligé de poser des questions, un peu comme des questions de recruteur, en fait. C'est vraiment
pour ouais, c'est ça.
Tu filtres parce que on n'a pas le temps. Personne n'a le temps, on a envie de rencontrer la bonne personne. Et donc, lorsqu'une femme demande, et c'est vrai que c'est une des premières questions qu'on pose, qu'est-ce que tu cherches sur cette appli? C'est quoi ton intention de départ quand tu t'es inscrit? Tu vas avoir des personnes qui vont dire, je sais pas, on verra au feeling. Là, ça, cette phrase-là, il y a plein de filles, elles en peuvent plus parce qu'on l'a tellement lue. Et il y a tellement de gens qui sont pas sincères qui disent ça, alors qu'en fait, eux, ils sont pas au feeling. Eux, ils sont en chasse, c'est très clair dans leur tête. Ils sont là pour accumuler le plus de rencontres possible, mais ils savent qu'en disant la vérité de leurs intentions, en disant « moi, je suis là pour baiser et plus jamais te rappeler après », il y a peu de chances que ça fonctionne, en fait. Donc, ils vont revêtir le costume de la personne un peu sympa, un peu normale, en disant oh, « je sais pas, je suis ouvert un peu à tout, on verra ». Et on n'en peut plus, en fait, de recevoir cette réponse-là. Donc, on va aller filtrer les personnes qui sont capables de verbaliser « moi, ce que je voudrais, c'est une belle relation ». Après, c'est pas moi qui vais le décider. Je sais pas si on va matcher vraiment tous les deux, mais dans mon intention, moi, j'aimerais bien une belle relation, une histoire d'amour. C'est quelque chose qui me plairait. Et quelqu'un qui est capable d'ouvrir un peu son cœur comme ça, ça veut dire qu'il a fait un peu le travail psychologique, qu'on n'a pas à aller creuser là au fond de son âme et de son cœur pour trouver c'est quoi que tu veux vraiment, mec, dis-moi. Et le problème, c'est que bah il y a plein de gens qui vont pas oser dire les choses comme ça, qui vont juste dire au feeling, et ben la fille elle va se dire ouais bah c'est encore un mec au feeling qui a pas compris que moi je veux qu'il me dise les choses. Ça se trouve il veut juste baiser comme plein d'autres avec lesquels j'ai parlé avant. Et le problème, c'est que toi t'as peut-être des intentions sincères, et pour te suivre depuis quelque temps, je pense que t'es vraiment sincère dans ta démarche, mais derrière toi et avant toi, il y en a eu combien des boulets. Paye pour les autres, quoi. C'est dommage.
Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ton point de vue parce que déjà, moi je suis nouveau entre guillemets sur les applis de rencontre. J'avais jamais été auparavant. Et c'est vrai que s'il y a des femmes qui sont depuis 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, effectivement, peut-être qu'il y a déjà 150 hommes qui leur ont dit la même chose que moi et peut-être qu'elles se sont fait avoir 10 fois et qu'elles veulent pas se faire avoir une 11e, quoi. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus, je pense que les femmes ont beaucoup plus de likes, beaucoup plus de matchs que les hommes. Donc, ouais. Beaucoup plus de peut-être potentielles mauvaises expériences, quoi.
Oui, oui. Après, il y a aussi celles qui sont là uniquement. Ça aussi, c'est documenté. C'est Judith Duportail qui en parlait dans son livre L'amour sous algorithme, où elle a un peu décortiqué Tinder. Et en fait, il y a des personnes, et c'est vrai, elle le dit elle-même, qu'il y a des femmes en particulier qui s'inscrivent sur les applications de rencontres, mais elles n'ont aucune intention de faire des rencontres. Elles sont juste là pour discuter, passer le temps, et éventuellement aussi se rassurer sur leur pouvoir de séduction.
Donc, ah oui, ça.
Ça, franchement, poubelle, ça sert à rien. S'il y avait la possibilité que l'algorithme dise, bon, bah, elles sont là pour s'amuser, je vais les mettre avec les gars aussi, qui sont là que pour s'amuser, en fait, juste, c'est des fantasmeurs, ils sont là pour trouver un support masturbatoire, et puis basta, ils vont jamais rencontrer personne. Et ben, on les matche ensemble, comme ça, ils jouent dans leur cours ensemble, et puis ils laissent les vrais gens, les gens sincères qui ont envie de faire des rencontres, on les laisse ensemble. Mais l'algorithme, il a pas intérêt à faire ça. Parce que s'il matche les bonnes personnes ensemble, qu'est-ce qui va se passer?
Oui.
Les gens, ils vont se barrer.
Voilà. Non, c'est sûr.
Mais toi, du coup, t'as réussi à faire quelques rencontres, mais tu dis que ça n'a pas forcément donné quelque chose, dans le sens où il y a eu quand même un premier rendez-vous.
Oui, j'ai eu des rendez-vous, parfois. C'est important d'en parler parce que j'ai eu aussi une ou deux fois des expériences où, avec la personne, il y a le feeling, tu sais, à l'écrit, où c'est fluide, ça se passe bien. Ça m'est arrivé deux fois où je me dis, putain, cette fille, elle est vraiment bien, on matche bien et tout. Là, je reçois un nude non désiré. Je vais en parler parce que souvent les femmes disent on reçoit des dick pics, comme vous dites.
Oui.
Et en fait, moi, ça m'est aussi arrivé avec une fille que tu sais, j'appréciais à l'écrit. Mm-hmm. Et là, tu reçois un nude provocateur. Et là, t'es déçu parce qu'au final, tu te dis, bah, cette personne-là, elle ne cherche pas comme moi au final. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Mais tu l'as envoyé juste comme ça ou c'était en plein milieu d'une conversation qui commence
à. Ah non, vraiment comme ça. J'avais reçu le nude et en écriture, c'était écrit est-ce que tu vas venir me voir ce soir?
Ah ouais, ok.
Au milieu de conversation, et là, tu dis, putain, ça fait deux jours qu'on parle, ouais. Et je la sentais bien, je me dis, c'est cool, mais en fait, tu démarres pas une histoire avec quelqu'un qui fait une chose comme ça, mais tu te dis, un nude sauvage comme ça qui apparaît, et si toi, tu l'as reçu, qui d'autre l'a reçu, et c'est quoi sa démarche? Et moi, ça m'est arrivé à deux reprises, et c'est vrai que c'est surprenant.
Comment t'as réagi, du coup, tu leur as dit quoi?
Alors, je vais pas faire le menteur, il y en a une que j'ai pas vue, et l'autre, effectivement, j'y suis allé.
Ouais.
On a eu le rapport intime et après on s'est plus jamais recontacté parce qu'au final c'est ce qu'elle voulait. Moi je me suis dit bah au pire tant pis pourquoi pas et je suis quand même allé mais c'est pour te dire que mon intention de base c'était pas du tout celle-ci en fait et je trouve ça dommage.
Mais elle l'a verbalisé en disant bah c'était cool mais bah on se reverra pas parce que moi je fonctionne comme ça ou tu l'as compris autrement?
Ah bah non mais en fait c'est très simple, je suis allé chez elle ce soir-là. Mmh. Il s'est passé ce qui s'est passé et ensuite une fois fini. Elle m'a pas dit clairement tu peux partir, mais tu sais c'est des phrases qui te le font sentir. Par exemple, elle habite au deuxième étage d'un immeuble,
ouais.
Et elle me disait putain fais chier, j'ai deux portes à ouvrir maintenant. Et c'est tout. Et je dis ouais ok. Et là elle me dit oh, bah là ton chien c'est long, il doit t'attendre. Ce genre de petites phrases. C'est pas vas-y pars, mais tu sais c'était des petites phrases qui te font sentir que t'es de trop dans la pièce en fait.
Et qu'elle voulait pas que tu restes plus longtemps.
Bah clairement pas. Alors que moi je me suis dit bah. Ça vient de se terminer, ça se fait pas de partir. J'allais pas forcément rester la nuit parce que c'est peut-être pas l'objectif, mais tu finis pas et tu pars pas aussitôt, je trouve. En tout cas, c'est question de respect, je pense. Mais là, j'ai clairement senti que dans la pièce, en fait, j'étais de trop.
Et après, quand t'es rentré, t'as pas reçu un message pour te dire ça va, t'es bien rentré, tout va bien
Rien du tout, rien du tout.
Okay.
J'ai pas non plus recherché à reprendre contact parce que, bah, clairement, ça sonne comme un truc qui, c'est fini. Quand tu te fais pousser à la porte. Une fois le truc terminé, c'est que bah clairement, tu n'as plus rien à faire dans la conversation.
Après, moi, je ne suis pas dans sa tête ni dans son corps, mais sauf si c'est quelqu'un qui était dans une phase un peu compliquée et puis Bah, elle peut après peut-être expliquer, en fait, j'ai peut-être été un petit peu brutale avec toi, mais j'ai passé un bon moment et j'aimerais bien qu'on se revoie, tu vois. Si
Non, jamais.
elle fait pas cette démarche-là, t'es pas dans sa tête, tu peux pas savoir.
Bah oui, non, c'est clair. Et puis, j'ai pas non plus cherché à savoir. Parce que, bah déjà, c'était la nuit non désirée où je me suis dit, putain, c'est dommage. Ensuite, il y a ce truc qui se passe. Après, je le regrette pas, hein, parce qu'au final, le sexe est un bon moment pour tout le monde, hein. J'ai quand même passé un bon moment. Mais au
Okay.
final, je suis content qu'on ne se soit parlé que 2 jours. Parce que tu imagines, ça t'arrive après 3 semaines de conversation, le temps perdu,
Oui,
il est incroyable.
c'est sûr. Peut-être
Et c'est
qu'on
pour
peut
ça que
repartir
moi.
de la base. Au départ, toi, t'es célibataire, mais tu l'es depuis quand, en fait?
Je suis célibataire depuis juillet 2023.
Ok. Et la relation, elle avait duré combien de temps?
Ça faisait 4 ans et demi.
Alors là, on va arriver au sujet un peu dur parfois. Moi, je connais pas de rupture où ça va, ça se passe bien, tout va bien, tout le monde est. Bah non, sinon ça s'appellerait pas une rupture.
C'est clair.
Mais là, est-ce que c'était elle? Est-ce que c'était toi? Est-ce que c'était d'un commun accord?
Alors, c'était clairement elle. Et en plus, c'est arrivé de manière. C'est arrivé du jour au lendemain, sans que je repère aucun signe le couple est en déclin, en fait. C'est-à-dire que vie sexuelle, très bien. Projet d'achat de maison. On riait, on sortait. Enfin, vie normale d'un couple comme depuis le début, en fait. Et puis, il y a un fameux week-end où je l'ai sentie, par contre, un peu plus distante. Où, en gros, elle faisait tout pour ne pas être à la maison. Et c'est un dimanche soir, sans que je m'y attende, où elle s'est mise à pleurer et qu'elle m'a dit, bah, écoute, c'est fini. Et là, je me dis, waouh. Et je comprends pas, en fait. Tu vois, sur le coup, je comprends pas. Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps à comprendre, mais ça a été un choc. J'ai mis 2, 3 jours à en pleurer. Pour moi, c'était pas réel. Parce que comme il y avait aucun signe, pour moi, c'était la femme de ma vie, en fait. Pour moi, c'était bon. J'avais la femme, qui allait m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Et d'un coup, tu te le prends en pleine face un dimanche soir à 23 h, c'est fini. Et là, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça a été un choc, pas que pour moi, quand je l'ai annoncé à mon entourage. La première réaction, ça a été, ouais, allez, c'est ça. Tu sais, comme si je racontais une blague.
Ah oui, j'y croyais pas.
Ben non, et c'est quand je me mettais à pleurer que les gens disaient, ah putain, peut-être qu'ils rigolent pas, en fait. Parce que vraiment, on n'était peut-être pas le modèle du couple idéal. Je vais pas non plus exagérer parce que le couple idéal, je pense que ça n'existe pas. Mais par contre, la réaction des gens, ça a été, mais c'est impossible qu'elle t'ait quitté. Elle t'aimait trop. Il y en a même qui m'ont dit, ben non, c'est toi qui l'as quittée, c'est obligé. Elle semblait tellement amoureuse que pour les gens, c'était inconcevable qu'elle soit partie.
Mais elle a mis des mots à part dire c'est fini, elle n'a pas expliqué voilà, je ressens pas la même chose ou quoi.
Sur le coup, non. Et c'est ce qui a été, je pense, très compliqué. Donc ensuite, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de disputes. Il y a eu des choses dites de son côté qui ont été très blessantes à mon égard, où je me suis vraiment senti rabaissé au plus bas. Moi, je suis dans le truc où je comprends pas. Je me retrouve tout seul chez moi et je comprends pas, en fait. Je sais qu'elle avait un entourage très négatif, donc des amis très négatifs autour d'elle. Et en fait, j'apprends qu'il y a eu une sorte d'influence de leur part qui a mené à cette rupture. Et ensuite, effectivement, elle a mis des mots en disant que bah elle me reprochait quand même certaines choses, notamment moi je suis quelqu'un, je suis pas froid mais je ne dis pas ce que je pense. Je suis pas quelqu'un qui s'ouvre facilement par les mots. Donc j'étais pas tellement dans le je t'aime.
I love you.
I know.
Moi je suis plus dans les actes et
Ouais.
donc effectivement ça elle me l'a reproché. Le couple s'est terminé comme ça, dans la guerre entre guillemets. Et c'est dommage parce qu'en fait on a vécu tellement de choses difficiles pendant nos 4 ans et demi. Que je m'étais toujours dit, si on a passé ça, on passe tout, en fait. C'est là que je me suis rendu compte que, bah, la personne a beau paraître amoureuse, a beau être là pour toi, etc., qu'en fait, rien n'est acquis et que faut faire très attention et que ça peut arriver à tout le monde et à tout moment.
Mais vous viviez ensemble?
Ah oui, on vivait ensemble depuis 3 ans. On a fait le confinement ensemble. On a eu des galères ensemble. Et c'est pour ça que je comprends pas ce qui s'est passé, quoi.
Et là encore aujourd'hui, vous avez plus du tout de contact l'un avec l'autre ou vous avez coupé les ponts un peu?
Alors en fait, il y a eu un mois, donc de juillet à mi-août, où j'ai complètement coupé les ponts, c'est-à-dire qu'elle avait plus aucun moyen de me contacter, et elle essayait via des autres personnes de rentrer en contact avec moi, ou par des stratagèmes du style dis-lui qui m'apporte ceci, j'ai besoin de cela, il me faut tel papier, tu sais, des stratagèmes un peu comme ça. Et donc on s'est revus mi-août, elle avait quelqu'un dans sa vie, ça s'est pas refait entre nous, mais on a eu une discussion plus profonde sur les raisons de notre rupture, donc j'ai pu un peu comprendre. Et là, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que de août à il y a encore très peu de temps, on est resté un peu en contact. Pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais on était entre guillemets en bon terme, on continue à se voir, donc il se passait encore des choses, etc. Et au final, il y a très peu de temps, là, il y a, je pense, ça doit faire moins d'un mois, où on s'est revus. Et en gros, là, j'ai l'impression de revivre une deuxième rupture. De août à encore très peu de temps, il y avait encore cet espoir de peut-être que ce n'est pas fini.
Mais elle avait
Et du coup,
quelqu'un d'autre entre-temps, tu disais au mois d'août, non? C'est pas ça?
Ouais, elle avait quelqu'un au mois d'août, c'est pour ça qu'au mois d'août, il s'était rien passé. Mais tu sais, on avait juste eu la discussion de pourquoi la rupture est arrivée.
Ouais, mais du coup, ce quelqu'un, elle l'a gardé ou après, elle l'a pas gardé?
Ah non, elle l'a pas gardé.
Ok.
Ils sont restés ensemble peut-être 2-3 mois. Ensuite, c'est moi qui ai eu quelqu'un.
Ouais.
Donc, ça a été compliqué à gérer pour elle, parce que moi, quand j'ai quelqu'un, j'ai quelqu'un. Bah, je suis sérieux, on va dire.
Tu te concentres, oui.
Il y avait toujours ce lien de message, est-ce que tu vas bien? Et je trouve que ça a été une erreur, parce qu'au final, moi, pendant tous ces mois, je l'avais toujours dans un coin de ma tête en me disant, de toute façon, elle est toujours là. C'est pas le moment, mais elle est toujours là. Ces dernières semaines, on se voyait de temps en temps.
Quand tu dis, vous voyez, pour faire quoi? Pour sortir ou pour avoir des relations intimes, c'était pourquoi?
Sortir, non, mais tu sais, des relations intimes, évidemment. Et juste des moments où on mange ensemble, on regarde un film, des moments posés, quoi. Des moments calmes. Je me disais, en fait, je suis pas prêt à la pardonner pour le mal qu'elle m'a fait, mais elle est là, en fait. Tu vois, si tu veux, j'attendais d'être prêt. Et là, il y a très peu de temps, je te dis, ça fait moins d'un mois, juste après que j'ai coupé tous les réseaux.
Ouais.
On est allé manger au restaurant ensemble et on a eu une discussion qui sonne comme la discussion finale, en fait. De, le couple, il est mort. C'est pas la peine. Et du coup, je regrette un peu toutes ces semaines où... Parce qu'au final, je me dis, j'allais bien parce que je m'accrochais à l'idée que c'était pas fini.
Ouais, c'est ça.
J'allais faussement bien, on va dire. J'allais bien parce que je m'obstinais à me dire, c'est pas fini, il y a un espoir, il y a une solution. J'ai l'impression là d'être dans une phase de rupture réelle. J'ai plus rien à quoi m'accrocher, c'est fini. Et donc là, je dois vivre avec ça et essayer d'aller bien par moi-même.
Mais c'est un peu toi, là, du coup, qui est acteur de la décision et qui dit, bon, en fait, ça avance pas comme il faudrait, donc on arrête de se voir. C'est plutôt toi qui l'explique, non?
On a eu une discussion de qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie le temps qu'on n'était plus ensemble? Comment tu vois ta vie maintenant? Et quel est ton mode de vie actuel? Tes attentes, ce que tu aimes faire, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, elle comme moi, que nos attentes n'étaient pas les mêmes, nos modes de vie n'étaient plus raccords. Parce qu'il y a, je pense, un détail important, c'est que moi, j'ai 30 ans et elle en a 23.
Okay.
Donc, il y a 7 ans de différence. Ce qui est à la fois peu et à la fois beaucoup parce que du coup, elle est dans le temps où c'est plutôt les sorties, les copines, on s'amuse, on profite, les week-ends, etc. Que moi, je suis plutôt dans le truc, on achète une maison, on est carré, on fonde une famille. Du coup, c'est frustrant parce que elle est dans l'attente d'un mec qui va sortir tous les week-ends, qui va ne penser qu'à s'amuser. Et moi, je suis dans l'attente d'une femme qui va m'apporter une sérénité un peu de vie et avec qui je vais pouvoir me projeter dans je veux un enfant et je veux acheter une maison. Et du coup, en fait, ça sert à rien de s'enfermer, parce que pour moi, c'est s'enfermer, de s'enfermer dans un truc où ni elle ni moi ne sera satisfait de ce que l'autre va apporter et au final, ressouffrir dans X temps, quoi, parce que ça fonctionnera pas.
D'où l'intérêt peut-être de rencontrer des personnes qui ont les mêmes intentions et peut-être pas pile le même âge, mais qui sont au même moment de leur vie, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. Et je m'en rends compte là, parce que vraiment, là, c'est vraiment une vraie rupture. Là, vraiment, je le sais. C'est-à-dire que j'ai plus de doutes. Les doutes que j'ai eus les derniers mois où je me disais, bon, de toute façon, elle est encore là. Elle est dans ma tête, elle est encore là. Je lui envoie un message, elle me répond. J'étais enfermé dans cet espoir, en fait. Et c'est ça qui est dangereux. Il y a une phrase qu'un ami m'a dit et qui m'a marqué parce que c'est quelqu'un qui a fait une très grosse dépression après une rupture il y a 10 ans et m'a dit, tu sais, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que ton problème peut rarement être ta solution. C'est-à-dire que la personne qui t'a fait du mal ne peut pas être celle qui va te guérir de ce mal. Il faut que tu guérisses par toi-même.
C'est très sage, ouais. Ouais.
Quand il m'a dit ça, j'ai réalisé qu'en fait, si j'allais bien, c'est parce que mon problème était ma solution et que donc, je savais que à tout moment, je lui envoyais un message et j'avais une réponse. C'est elle qui faisait en sorte que j'allais bien, alors que c'est elle, entre guillemets, qui fait que je vais mal. Et du coup, ça peut pas aller.
Et comment tu l'avais rencontré? Parce que du coup, il y a une différence d'âge. Donc, c'était dans quel cercle, quelle circonstance?
J'ai été forcé par un ami d'aller dans un bar un soir.
C'est quoi forcé? J'aurais été prendre par
là. Je voulais. En fait, mon ami était célibataire à cette époque. Et lui voulait absolument rencontrer quelqu'un. J'ai un ami qui n'aime pas être seul. Et donc, il me dit, allez, gros, faut qu'on sorte, sinon on va jamais rencontrer personne, parce que moi, j'étais célibataire aussi. Mais à cette époque, il y avait une fille que je voyais régulièrement. J'avais un plan cul à cette époque, et donc je suis sorti dans le bar avec mon pote, mon plan cul, donc on était à 3. À une table pas loin de nous, il y a une fille qui n'arrêtait pas de me regarder.
Ouais.
Et c'est mon pote qui me fait remarquer, il me dit, putain, la fille là-bas, elle fait que te regarder. Et donc du coup, je regarde, effectivement, je vois une très jolie fille qui me regarde, je me dis, ah, c'est vrai que je pense qu'elle me regarde. Et au fil de la soirée, en fait, on se regarde. Mais moi, je ne comptais pas aller l'aborder de base.
Pourquoi?
J'ai aucun courage.
Mais là, tu as tous les signaux, là. Les signaux, ils sont verts, tu peux y aller.
Ah oui, non, mais c'était clairement ouvert, hein. Mais j'avais aucun courage. Et en fait, ce qui m'a donné le courage, c'est un peu un truc d'ego un peu nul, mais c'est que mon pote a repéré une jolie fille aussi ce soir-là, et il est allé l'aborder.
Okay.
Et moi, je me suis dit, attends, lui, il y va. pourquoi moi, j'aurais peur dans mon coin. Je dis, vas-y, s'il y va, j'y vais.
Ouais.
Et en fait, c'est un truc d'ego un peu nul. Mmh. Et du coup, je suis allé l'aborder. Je lui ai demandé son Snap, tout simplement. Et ça a commencé comme ça.
Ça, c'est bien comme usage parce que, comme moi, je suis une personne âgée.
Non, ça va, ça va.
Maintenant, est-ce que c'est régional? Je ne sais pas. Peut-être que je pose la question même aux gens qui nous écoutent là. Qu'est-ce que vous donnez comme contact? Est-ce que vous donnez plus facilement, effectivement, le contact Snap ou Instagram? J'ai vu qu'il y en a, c'est plus Insta. Ou d'autres encore, ils ne s'emmerdent pas, ils disent non, mais moi, je n'ai pas de problème à donner mon numéro. D'autres qui disent non, mais moi, ça me pose un problème de donner mon numéro. Donc, par quoi vous passez? Et là, peut-être que toi, tu savais, ou c'est elle qui... Parce que vous n'êtes pas exactement de la même génération, visiblement, mais vous aviez bah, tous oui. les deux ce truc de... C'est toi qui as dit, est-ce que tu as un Snap, ou c'est elle qui t'a dit oui ou non? Comment t'as dit ta
phrase? Ah non, c'est moi, instinctivement, j'y suis allé, j'ai demandé le Snap, en fait, j'ai même pas réfléchi.
Ok.
Mais là, je sais qu'actuellement, moi, quand j'étais sur les applications de rencontre, au début, tu parlais un peu sur l'application de rencontre, et après, tu échanges un réseau.
Oui.
Et c'est vrai qu'à chaque fois, systématiquement, c'est Instagram qui prend, quoi.
Oui, oui. Bah après, ça dépend. Il y a des gens, ils veulent pas donner leur Insta aussi parce que c'est un Insta qui est privé.
Ça peut arriver aussi. Mais moi, je trouve que c'est intéressant de s'échanger un réseau comme ça parce que tu vois par les photos.
Oui, bah oui.
T'arrives à mieux cerner la personne, je trouve.
C'est pour ça qu'on veut sortir de l'appli aussi. C'est de passer à d'autres modes de communication. Il y a même possibilité d'envoyer
bah oui, c'est des vidéos. Oui, c'est ça. C'est ça.
Et donc, elle t'a pas dit bonjour, je m'appelle machin et j'ai tel âge. Donc, t'as pas su tout de suite qu'il y avait une différence d'âge.
En fait, moi, cette fille, je la vois et elle me dit j'ai 23 ans.
Elle te le dit comme ça?
Ah non, mais attends. Elle me dit j'ai 23 ans. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je la rencontre, elle est étudiante, mais elle a un travail, elle vit seule dans un appartement. Donc je me dis, très indépendante, donc elle travaille pour payer ses études. Mmh. Et donc quand elle me dit j'ai 23 ans, ça ne me choque pas du tout par rapport à ce qu'elle fait dans la vie. Je me dis, c'est possible. Et en fait, au fil du temps, donc on est déjà ensemble, on se voit, etc. Et en fait, elle me dit j'ai un truc à te dire. Et je dis, ouh, ça pue, tu vois. Et elle me dit, en fait, j'ai 18 ans. Et là, je me prends une claque et je me dis, ouais, attends, 18 ans. Et je dis, c'est pas possible. Elle avait 18 ans depuis 6 mois, je crois, un truc comme ça. Et je me dis, ça fait 3 semaines qu'on est ensemble et tu me dis, j'ai 18 ans, alors que moi, je pensais que t'en avais 23. Elle me dit, oui, mais si je t'avais dit la vérité, je t'aurais pas intéressé. Et là, je me dis, ouais, ça commence par un mensonge. Et au début, je l'encaisse très mal. Mm-hmm. Et j'ai une phase où je doute et où je me dis, ah, ça pue quand même, elle ment dès le début. Et en fait, après, je me suis dit, bah, au final, elle a raison. Si elle m'avait dit j'ai 18 ans, j'aurais pas poussé le truc.
Et je dis pas qu'il y a une grande différence entre le fait d'avoir 18 ans et 18 ans et demi et être quelqu'un qui a 17 ans et demi. Je suis pas dans la tête des gens. Après, il y a ce que dit la loi, il y a ce que dit la morale, il y a les valeurs de chacun. Et il y a des personnes qui se disent, moi, la personne, elle a moins de 18 ans, même pas, je lui parle. Je rentre même pas dans les emmerdes, c'est trop, même elle est peut-être mature, ce que tu veux. Elle est mineure. C'est ça le terme légal, elle est mineure. Et après,
mais je pense que...
il y a d'autres personnes qui se disent, ben, en même temps, c'est elle qui vient me parler, qui est volontaire, et voilà, ça ne veut pas dire que il se passe pas forcément quelque chose, etc. Et le consentement, il est là. Donc là, toi, tu découvres du coup qu'elle avait 18 ans quand même, donc elle était quand même majeure, mais il y a quand même une différence entre 18 et 25, même en termes de parcours de vie et de projet. Donc tu peux déjà t'interroger et te dire, au-delà du mensonge, bah si, quand même, c'est révélateur. Pourquoi elle fait ça? Elle t'a dit, bah moi, je le dis toujours la vérité quand je sens que je suis dans une relation intéressante ou je veux qu'on me juge par rapport à ma personnalité et pas par rapport à mon âge. Ou elle a pas plus détaillé que ça?
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelqu'un de mineur, c'est hors de question. Déjà là, 18 ans, je trouvais que c'était limite. Trop jeune. C'est même pas question de la loi, c'est question de morale. Je trouve qu'il y a quand même un minimum de bon sens. Quelqu'un de 16 ans, par exemple, moi, je lui adresse pas la parole.
Mmh.
Et du coup, là, moi, j'étais dans ce truc où 18 ans, bah, ok, c'est majeur, mais je me dis, ouah, c'est jeune quand même. Mais en fait, elle m'a dit, oui, mais si je t'avais dit la vérité, on n'aurait pas poussé le truc. Et après, en fait, en y réfléchissant, je me suis dit, bah, de toute façon, moi, je suis déjà, entre guillemets, amoureux.
Ouais.
D'abord, j'ai cette phase de doute où je me dis, ouah, c'est quand même très jeune, etc. Et j'en parle autour de moi, à mes amis, et beaucoup m'ont soutenu parce que, du coup, mes amis la connaissaient un peu. Et effectivement, 23 ans, ça choquait personne parce qu'elle était mature, très carrée. J'ai mon appartement, je travaille, je paye mes études. Et du coup, ça m'a rassuré en me disant, bah, au final, elle est limite plus mature que moi. Et donc, je me suis dit, bah, je vais tenter l'aventure et on verra où ça nous mène. Et jusqu'à notre rupture, moi, je me sentais très heureux. J'étais très bien avec elle. La différence d'âge, on est vite passé au-dessus.
Ça a duré quand même plus de 4 ans, c'est ça?
Ah oui, 4 ans et demi, puis on a visité des maisons ensemble pour acheter ensemble, on avait des projets, non, c'était très bien. Le seul regret, c'est la fin. forcément, le seul regret, c'est quand ça se termine. Mais sinon, moi, sur les 4 ans et demi que j'ai passé avec cette personne, j'ai aucun problème et j'ai rien à redire, en fait.
Est-ce que c'était ta plus longue histoire jusqu'à présent?
Oui. En fait, moi, je suis un célibataire dans l'âme. C'est-à-dire que de mes 16 ans à 20 ans, j'avais côtoyé une fille. On était jeunes, ça fonctionnait pas. On s'amusait tous les deux de notre côté, on s'est fait du mal. Enfin, ça servait à rien. Mais moi, de mes 21 ans à mes 25 ans, j'étais célibataire.
Mmh.
Donc, je sortais de 4 ans de célibat quand je me suis mis avec mon ex-copine, du coup. Et au final, j'ai eu autant de célibat que de temps que j'ai passé avec elle, quasiment. Parce que moi, je suis long à me mettre en couple, en fait. Je suis pas ce genre de personne où ils te disent, dans l'année, ils sont 5 fois en couple.
Oui,
et ça dure un mois à chaque fois. Pour moi, c'est pas un couple, en fait.
Peut-être qu'ils ont des coups de cœur et ils se lancent.
Certainement, c'est peut-être des gens beaucoup plus courageux que moi, peut-être. Mais il faut que je sois rassuré, en fait. J'ai besoin de temps, il faut que je sois sûr. Pour moi, le couple, c'est un engagement qui doit être pris au sérieux. C'est pas juste, OK, elle est jolie, elle est gentille, on se met en couple et on voit ce que ça donne. Moi, j'ai besoin de me dire, OK, est-ce que cette fille, je l'amène à un repas chez ma mère, par exemple?
Ah, mais attends, là, on arrive à des stades. Mais c'est peut-être très différent aussi. Peut-être toi, dans ta famille, tes amis, ton entourage, pour toi, l'étape, d'abord, peut-être dans un premier temps, tu présentes aux amis.
Ouais, c'est ça.
Et après, sans dire, ils vont la valider ou quoi, mais quand tu te sens en confiance, là, tu te dis, bon, bah, c'est bon, on est prêt, on va rencontrer la madrée, quoi.
C'est ça, c'est la maman.
Donc ça,
la maman, c'est important.
C'est une étape importante, mais que tu as en tête, et donc tu veux le faire dans un certain délai, tu veux le faire rapidement, il faut que tu sois sûr. Comment tu fonctionnes?
Quand j'ai senti que vraiment ça allait durer, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je me suis dit, OK, j'ai trouvé la bonne. En fait, on était tellement dans le truc, on s'entendait tellement bien, on était heureux, on arrivait à bien communiquer, etc. Et on voulait déjà emménager ensemble. Parce que moi, j'habitais encore chez mes parents à ce moment-là. Donc pour te dire, moi, j'avais 25, j'étais chez mes parents, elle avait déjà, elle, son appartement. Et en fait, ma mère remarquait que je dormais de moins en moins chez elle, du coup.
Tu disais pas, je suis chez des potes, tu disais quoi?
Bah, au début, je mentais un peu, mais ma mère se sentait très bien. Genre, en pleine semaine, un mardi, je vais pas dormir chez des potes alors que je bosse le lendemain.
Mmh.
Et du coup, bah, une nuit par semaine, je dormais plus chez ma mère. Ensuite, 2 nuits, après, ça a été 3 nuits. Et donc, du coup, j'ai commencé à dire, bah, écoute, je vois quelqu'un. J'ai commencé à parler aussi de son âge, un peu parler, raconter à ma mère ce qui se passait.
Mmh.
Et mes parents, c'est des curieux. Je pense, bah, c'est des parents, hein, mais ils voulaient absolument la voir. Oui, nous, on veut la voir, on veut la voir. J'y attendais, pas encore. J'attends de voir, etc. Et avec mes amis, ça s'est très bien passé.
Mmh.
Et ensuite, j'ai décidé un jour, bah écoute, on va aller chez mes parents. Mais en fait, ça s'est fait, c'est pas j'ai prévu un repas et on a fait un truc construit. C'est genre, bah non, bah viens, on va chez mes parents et on est allé chez mes parents, en fait.
Mais ça, tu penses que ça s'est fait au bout de quelques mois, la première année, ou tu aurais le daté?
Je pense que, moi, je te dirais 6 mois minimum, mais je n'ai pas la précision. Je n'ai pas vraiment fait attention à ce détail.
Je vais te donner un exemple de mon côté. Moi, mon ex-compagnon avec lequel je suis resté 13 ans, il a mis 5 ans à me présenter à ses parents. Moi, je n'en voulais pas du tout parce que il savait que c'était un enjeu important. Lui aussi avait besoin d'être plus que rassuré. Bon, là, ça fait 5 ans, je pense que ça va. On peut dire que la personne, elle est fiable, ça se passe bien. Mais il savait que la présentation, elle pouvait être complexe, pas par rapport à sa mère qui est adorable, mais son père, paix à son âme, était quelqu'un qui avait des idées bien arrêtées sur les personnes d'origine maghrébine, mais parce que il vivait dans un village près de Blois où il n'avait pas rencontré beaucoup de personnes maghrébines en fait dans sa vie, tout simplement. Et donc lui, sa source d'information principale, c'était pas BFM, c'était à l'époque la version BFM, Jean-Pierre Pernaut, le Fraiseur. Donc, et ben, il y avait ce côté. Allons voir ces maghrébins qui font encore des conneries, je sais pas où. Et donc, il avait un peu détestable. Il avait fait la guerre d'Algérie, il avait des souvenirs aussi qui étaient compliqués. Et donc, mon ex, il se disait, ça va être chaud de présenter Louisa et de lui expliquer tout ça. Et en fait, il a fini par me présenter au bout de 5 ans. Et je crois que les premiers mots qu'il m'a dit, donc son papa, c'est « Mais vous avez pas d'accent quand vous parlez ?»
Ah ouais.
Je dis, bah non, parce qu'en fait, moi, je suis née ici, je suis née en France. En fait, je suis française, moi. Oui, je suis d'origine algérienne, mais je suis française. Je peux vous faire un accent de banlieue, si vous voulez. Mais Et donc, par l'humour, j'ai réussi à faire passer quelques petits trucs. Et puis, je parlais de plein de sujets. Il me dit, mais vous vous intéressez à l'économie, à la politique. Enfin, vous vous intéressez vachement à des choses vraiment très, très intéressantes. Et donc, je me suis dit, mais je ne sais pas quelle image il a.
Ouais, c'est waouh.
Donc, est-ce qu'il y a une part d'inconnu, une part de méfiance? Peut-être une petite part de racisme, sans doute, mais pas dans la méchanceté, mais pas d'agressivité. Donc c'était compliqué, mais finalement il m'a présenté et il a eu ce courage-là. Parce que tu parlais de courage tout à l'heure. Moi, je n'ai pas eu ce courage de le présenter à mes parents parce que j'étais dans la phase courage fuyons pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai pas envie de salir cette belle histoire d'amour qui est importante pour moi. Ça va être que des emmerdes avec mes parents, surtout ma mère, parce que j'avais vu comment ça s'était passé avec mon grand frère, mes deux grands frères qui ont amené des personnes qui ne convenaient pas à ma maman, l'une marocaine et l'autre française, blanche, blonde, ce que tu veux. Et je suis en fait, il n'y a rien qui va, vraiment. En fait, tu as un portrait robot, qu'est-ce qu'il faut qu'on t'amène? Comme ça, on sait. Donc, bref, donc, du coup, même encore aujourd'hui, ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille. Encore aujourd'hui, ma mère, elle ne sait pas que j'ai été en couple pendant 13 ans. Elle ne sait pas que j'ai été paxée. Elle ne sait pas tout ce que j'ai vécu. Peut-être un jour, je trouverai la force de lui en parler. Mais tout ça pour dire que, en fait, la présentation aux parents, c'est un truc qui est super important. Il faut respecter le rythme de chacun. Il y en a, ils ont besoin de le faire effectivement au bout de quelques semaines à peine. D'autres, c'est 6 mois, ce qui est déjà important. Et d'autres, c'est 5 ans. Et d'autres, ça sera jamais. C'est comme ça. Quand même, 6 mois, je trouve que c'est bien au niveau de votre rythme à vous, parce que vous voyez très souvent, plusieurs fois par semaine, donc c'est plutôt bien. Ça se passe bien, les amis, ça se passe bien. Et puis, la relation avance jusqu'à ce que vous avez vécu comme épreuve, notamment le confinement. Et après, ça s'arrête. Donc, toi, t'as vécu le couple, t'as vécu le célibat où tu sors, tu fais des rencontres. Mais tu disais que toi, tu souffrais pas forcément de solitude, contrairement à ton ami qui, lui, faut qu'il rencontre des gens. C'est pas possible qu'il soit en statut célibataire sans copine, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, si tu veux, je préfère être. Enfin, c'est la phrase qui est un peu con, mais je préfère être seul que mal accompagné, en fait. Tu te mets pas avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Déjà, c'est égoïste, je trouve, parce que te mettre avec quelqu'un juste pour te mettre avec quelqu'un. C'est juste, la personne est là en attendant, et si t'as mieux, elle va filer, alors que peut-être que pour elle, toi, t'es très important, et donc au final, c'est faire souffrir quelqu'un.
Mais en termes d'intimité, du coup, parce que souvent, sans dire que c'est tous les mecs qui sont comme ça, ça dépend des gens, il y a ce sujet du manque d'intimité, de sexualité, de tendresse, de juste avoir quelqu'un dans les bras, en fait. Tu ressens ça au bout d'un moment, ou pas du tout, tu le vis très bien?
Moi, je le vis très bien. En fait, quand je suis célibataire, par exemple, ne pas avoir de moments intimes, donc je parle de sexe et de câlins, tu sais, comme tu parlais.
Ouais.
C'est pas vraiment ça qui me manque. Par exemple, si demain j'ai une opportunité de passer la nuit avec quelqu'un, je vais le faire. Mais je vais pas être dans la recherche absolument d'avoir ce moment, en fait. Je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais je suis pas un...
Attends, on va dire les termes. Est-ce que c'est parce que, justement, tu t'auto-suffis en termes de masturbation, par exemple?
Écoute, ça aussi, très peu. Je le fais, hein, je vais pas faire le menteur. Et effectivement, ça m'arrive. Mais c'est pas un truc où je le fais... systématiquement.
Non, mais ça, c'est un truc que j'ai découvert. Je pense que les femmes qui nous entendent, il faut qu'elles sachent. Nous, on nous a appris que tous les hommes sur Terre se masturbaient et de façon très régulière. Si c'est pas tous les jours, c'est toutes les semaines. Donc, quand on rencontre des gens dotés d'un pénis qui te disent, mais moi, en fait, non, la masturbation, c'est pas mon kiff du tout. Je peux m'en passer pendant plusieurs semaines. Ça explose pas, il se passe rien, ça va, quoi. Eh ben, c'est une vraie découverte parce qu'on nous en parle jamais.
Non, mais après, moi, si je peux te dire, je sais pas trop, mais ça peut toutes les semaines, ça peut m'arriver, comme je peux ne pas le faire pendant 2 semaines. Ça dépend, en fait. Des fois, je peux le faire 3 fois dans la semaine, ou, tu sais, j'ai pas de calendrier où je mets une croix quand ça arrive, tu vois. C'est pas genre, je me dis, OK, jeudi.
Ça, c'est fait. OK.
Jeudi, ça sera fait, et je sais pas, c'est juste, c'est des périodes, c'est des envies. Des fois, je me dis, bon, allez, ou des fois, c'est tout con. Par exemple, t'arrives pas à dormir.
Oui, ça calme.
Voilà, mais non, mais c'est clairement ça. Moi, des fois, ça m'arrive genre 2 heures du matin. Je me dis, putain, j'arrive pas à dormir, c'est chiant. Et t'as un somnifère naturel, en fait. Tu te dis, ok, on se détend et tu vas dormir. Donc, ça dépend vraiment de...
Comment tu fais? C'est pas techniquement, c'est plus, est-ce que t'as un support? C'est-à-dire, t'as des vidéos que t'aimes bien ou d'autres vidéos que tu vas aller chercher, donc en clair du porno ou autre chose? Ou est-ce que... Les filles, on est plus sur le son et sur les images qu'on a dans la tête. Après, je sais qu'il y a des filles qui aiment le porno, mais c'est vraiment très minoritaire. Passion stats, je vous mettrai les stats. Ça n'a rien à voir, le nombre de femmes qui regardent le porno et le nombre d'hommes. C'est des années-lumière entre les deux. Parce que nous, on a une capacité que vous n'avez pas pour beaucoup d'entre vous. Je parle des hommes hétéros en particulier. C'est qu'on a le pouvoir de l'évocation du souvenir. C'est-à-dire que tu peux avoir un best-of dans ta tête de, mettons, tous tes meilleurs plans de cul, ou pas que plans de cul, peu importe, tu l'as dans la tête à disposition quand tu veux. Et c'est hyper pratique. Et du coup, t'as pas besoin de prendre ton téléphone ou je sais pas quoi. Tu lances, c'est parti. Moi, je trouve ça plus joli, plus évocateur et plus poétique. Parce que dedans, ah ouais, j'ai oublié de préciser un truc. Dedans, il y a aussi les gens avec qui on est frité, hein. On en a rien à foutre. Je veux dire, le souvenir, il est toujours là. C'est pas parce que on est plus, on se voit plus, on s'est énervé ou quoi. C'est pas grave. La scène qu'on a vécue ensemble et qu'on a améliorée aussi dans nos souvenirs, elle est toujours là. Est-ce que toi, tu pars par là ou est-ce que tu as besoin de vidéos, par exemple?
Alors, moi, il y a un peu des deux. Parfois, je fonctionne à l'imaginaire, tu sais, comme tu dis, à l'imaginaire, c'est-à-dire, je m'imagine des scènes. Mm-hmm. Parfois, je revis des scènes, comme tu as dit, mais c'est vrai que parfois, ouais, je prends, comme tout le monde, ma tablette et je vais sur, je sais pas si on peut citer.
Bon, vas-y. Hein.
Pornhub, par exemple.
Ok. Et là, tu vas avoir des tags, des trucs que tu aimes bien en particulier?
Bah, souvent, moi, je regarde des vidéos, je suis pas dans l'extrême, hein, je regarde des vidéos classiques, mais c'est une chose que j'aime pas trop. T'es dans la recherche de la vidéo,
oui.
Et tu passes un temps fou en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Tu vas cliquer sur la vidéo, tu vas regarder 20 secondes. Oh non, c'est pas celle-là. Hop, des fois je suis sûr, tu passes un temps fou à juste chercher la vidéo qui va te convenir. Et en fait, ce principe-là, j'essaye de me dire, bah ok, non, c'est nul en fait. Donc ça, je diminue de plus en plus. Enfin, j'y vais quasiment pas hein, de toute façon. Quand j'y vais, c'est vrai que je me dis, putain, ça fait une demi-heure, je cherche une vidéo. Enfin, c'est chiant quoi.
Ouais, ça n'a pas de sens.
Bah non, ça n'a pas de sens en fait. Quand tu réfléchis, j'avais vu un truc où tu disais, bah, plus t'es dans la recherche et moins t'es satisfait, en fait.
Mm-hmm.
T'es dans un truc vicieux où tu te dis, putain, non, celle-là, ouais, c'est un peu comme celle que j'ai vue la dernière fois. Et en fait, tu banalises le truc. Le
truc d'inédit, alors qu'il n'y a pas d'inédit là-dedans. C'est juste
dans c'est clair.
Qui te plaît, c'est tout.
Et donc, en fait, moi, là, ça fait par exemple des mois que je suis pas allé sur un site porno. Mais j'ai été consommateur, évidemment, de sites porno, comme je pense 80% des hommes sur Terre, si c'est pas plus. Je sais pas si t'as les stats, mais.
Ah, bah, on va prouver. Par contre, est-ce que c'est un truc que tu évoques, tu peux en discuter librement avec tes amis mecs, ou amis filles, ou pas du tout? C'est un truc qui est très, très privé.
Alors moi, dans ce qui est amis, j'ai énormément de chance. Je pense que j'ai les meilleurs amis de la Terre. On parle de tout, rien n'est tabou. Dans mes amis, j'ai vraiment aucun sujet qui est interdit. Donc on peut en parler entre potes. Tu sais que même les mecs en couple se masturbent.
Bah oui, évidemment, c'est pas interdit. Hein.
Évidemment, évidemment. Moi, j'ai des potes en couple, on en parle en soirée. Je dis, ouais, bah, moi, ça m'arrive. Puis, souvent, les femmes sont vexées, en plus. Les copines sont vexées.
Il n'y a aucune raison. Ça, c'est un truc, mais c'est parce qu'on leur a mis dans la tête, hein. C'est dans les magazines féminins.
Mais bien sûr.
C'est comme s'ils vous trompaient. Mais n'importe quoi.
Pas du tout. Mais les femmes se masturbent aussi. De toute façon, là, ouais. On parle des hommes, mais les femmes aussi.
Bien sûr.
Et c'est normal. En fait, c'est pas une honte. À partir du moment où c'est un truc, absolument tout le monde le fait et il n'y a aucun mal, tu fais de mal à personne. C'est un truc que tu fais dans l'intime. Bah, il n'y a pas à avoir honte, en fait. On est tous des humains. On a tous des désirs. On a tous des pulsions, des envies. Et voilà, vivons notre vie, quoi.
Et du coup, tu as fêté tes 30 ans, notamment avec ces amis-là. Ça fait quoi, le cap des 30 ans? Ça te fait quelque chose? Ou en fait, tu vis ta vie comme avant? Tu as commencé à prendre des décisions, notamment par rapport aux réseaux sociaux?
Quand j'ai eu 30 ans, alors je pense que ce que je vais dire là, ça va t'évoquer quelque chose, mais je me suis senti en retard.
Mmh.
En gros, je me suis dit, OK, j'ai 30 ans, ça va. Je suis célibataire.
Mmh.
Ok. J'ai pas d'enfant. Ok. J'ai pas encore acheté ma maison. Ok. Et je regarde autour de moi, je me dis, putain, mon pote là-bas, il a un enfant. Mon pote là-bas, il a acheté sa maison. Mon pote là-bas, tu vois. Et j'ai eu ce truc de, putain, je suis en retard.
Mais en retard, comme et si là, c'est, je suis en... c'est une course.
C'est ça. Et c'est ce que je suis en train d'accepter, en fait. C'est-à-dire que mes 30 ans, ça m'a mis un coup de pied au cul en me disant, putain, c'est maintenant, il faut que tu te bouges le cul parce que tu vieillis, c'est 30 ans. Et en fait, alors que, entre guillemets, j'ai que 30 ans.
Mmh.
Et moi, beaucoup m'ont dit, et notamment toi, tu me l'as dit aussi par message,
ouais.
La trentaine, c'est les meilleures années de ta vie.
Ouais,
je pense que tu m'avais dit un truc comme ça, où tu m'avais dit c'est ta vie qui commence, ou je ne sais plus ce que tu m'avais dit.
C'est plus la trentaine, il se passe beaucoup de choses.
Voilà, c'est ça. C'est là où
tu vas construire, alors que la vingtaine, ça dépend des gens, mais la vingtaine, tu es un peu dans le début, le commencement, tu rames, tu peux être dans la précarité, tu es dans un rapport aussi avec tes parents, où il peut y avoir... ce truc de les rendre fiers aussi, donc t'essayes d'avancer au maximum. Et la trentaine, c'est bon, là, on est adulte, là, on fait des trucs d'adultes, on gère nos impôts et tout, donc à un moment donné, voilà, il faut aussi être un peu bienveillant envers soi-même. Mais je trouve que le top du top, moi j'y suis maintenant, la quarantaine, c'est franchement par rapport à la trentaine, c'est qu'est-ce qu'on s'emmerde moins, enfin on se prend plus la tête sur des trucs. Tiens, bah, par exemple, ça on en a pas parlé, mais là je te coupe, mais le rapport au corps, c'est important qu'on en parle. On va faire les choses dans l'ordre. D'abord, 30 ans, tu te poses plein de questions, tu veux avancer, mais en même temps, tu es conscient que voilà, c'est pas une course, donc tu fais à ton rythme. Donc toi, visiblement, dans ta tête, il y a le sujet d'être papa,
ouais,
un jour, et de posséder ta maison. Ça, c'est un truc... pourquoi? Pourquoi c'est important de posséder sa maison?
En fait, c'est surtout le truc de... J'essaie de voir loin et je me dis, si à la retraite, c'est un peu con de penser ça à 30 ans, mais, non, mais peut-être c'est un truc qu'on m'a mis en tête aussi.
Ouais.
Mais je me dis, si à la retraite, tu as une petite retraite et que tu as un loyer à payer,
ouais, c'est chaud.
T'es mort, en fait.
Mm-hmm.
Donc, il y a ce truc de, si je vis jusqu'à ma retraite, parce que effectivement la vie s'est fait d'aléas et tu sais pas si tu seras encore là à ta retraite. Mais je me dis, si à mes 60 ans, 65 ans, quand je prends ma retraite, je suis encore en bonne santé et encore patati et patata, je me dis, j'ai pas envie d'avoir 550 euros à donner à quelqu'un qui va m'empêcher de profiter de ma retraite convenablement, comme je le mérite après une vie de travail, comme tout le monde le mérite après une vie de travail. Et moi, je trouve ça tragique des gens avec qui je discute parfois, qui me disent, putain, j'ai 900 euros, je galère à vivre, je suis à découvert tous les mois, je peux rien faire, je fais pas de cadeaux à mes petits-enfants.
Mmh.
Et tu te dis, au final, j'ai travaillé pour quoi? Et en fait, je me dis, avoir sa maison, ça t'enlève un peu ce poids de, t'as pas de loyer à donner, en fait. Donc, effectivement, t'as quand même des choses à payer parce que dans la vie, tu payes toujours tout.
Mm-hmm.
Mais tu t'enlèves ce poids de, putain, j'ai 550 euros par mois à donner. Si j'ai que 900 par mois, comment je vais faire?
Ouais.
Et moi, je pense à venir et je pense à me dire, ça serait con de travailler toute sa vie pour finir pauvre et malheureux, de pas pouvoir profiter avec ses petits-enfants. Tu sais, moi, je vois là ma mère, les grands-mères.
Mm-hmm.
Et c'est un bonheur infini d'avoir ses petits-enfants, de les emmener au McDo et de leur faire des petits cadeaux et à pas qu'on donne. Et je me dis, pourquoi se priver de ce bonheur, de cette possibilité aussi de profiter? Il y en a à leur retraite, ils achètent un camping-car et ils bougent, par exemple, ou alors ils vont en vacances 6 mois dans l'année. Ou pourquoi ne pas se dire, OK, si j'ai ma maison, peut-être qu'à ma retraite, je vais pouvoir plus en profiter si j'ai la chance d'aller jusque-là, quoi.
Et du coup, s'il y a les grands-mères, ça veut dire que toi, tu es tonton.
Ouais, et parrain même.
Ça t'a donné encore plus envie de devenir papa à ton tour un jour?
En fait, c'est incroyable. Et même au-delà de ça, ma meilleure amie est maman. Et en fait, de voir donc ma meilleure amie et son copain qui est devenu un très bon ami à moi aussi par le fait, en fait, voir le bonheur que ça procure un enfant, c'est quand même quelque chose de magique. Et il y a un truc où je me dis, réussir sa vie, au final, c'est quoi? Est-ce que c'est être riche d'avoir de l'argent, d'avoir des sommes sur son compte, d'avoir une belle voiture et tout? Mais en fait, pour moi, être riche, c'est avoir ce que eux ils ont. Mon pote, même ma meilleure amie, quand ils rentrent du boulot, à la maison, ils ont une personne qui les aime et un enfant, tu vois. Et moi, j'ai ce truc en tête de, est-ce qu'il y a meilleur que ça sur Terre?
Toi, il y a une personne qui t'aime de façon inconditionnelle, hein, c'est ton chien.
Ah bien sûr. De toute façon, je sais qu'on va en parler de ça, mais de toute façon, c'est comme un enfant pour moi, hein, mon chien.
Depuis combien de temps tu l'as, ton chien?
Il vient d'avoir 3 ans, là. Ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'il est avec moi, quoi.
Ok. Est-ce que c'était aussi un peu le chien de ton ex-compagne ou pas du tout?
En fait, depuis tout petit, je fais chier ma mère pour avoir un Saint-Bernard.
Ouais.
Parce que, effectivement, donc on va le préciser, mon chien, c'est un Saint-Bernard. Et du coup, toute mon enfance, ma mère me disait, quand t'auras ta maison. Donc, en fait, c'est le chien de mes rêves.
Mm-hmm.
Donc, j'avais économisé parce que c'est un coût, hein. Je voulais acheter un chien dans un bon élevage qui fait attention. Tu vois, un truc carré.
Mm-hmm.
Et du coup, je me suis offert mon chien. Ce que je suis content d'avoir fait, c'est que le chien est à mon nom, à propre à moi. En fait, c'est mon chien, si tu veux, sur papier.
Ouais, ok.
Donc, j'ai pu le garder. Et pour moi, ça a été une délivrance d'avoir pu garder mon chien. Parce que si j'avais perdu et ma copine et mon chien, pour moi, c'était fini, quoi. Elle a eu bébé aussi, le chien. Donc, on a été le chercher ensemble, dans l'élevage ensemble. Donc, effectivement, c'est quand même, sur papier, à 100%, c'est mon chien. Mais si on parle de cœur, si c'est ça que tu abordes,
ouais.
C'était quand même un peu son chien aussi, parce qu'elle l'a vu grandir. Il y a ce truc où on l'a éduqué, machin, mais je pense qu'il y a cette phrase de le chien choisit son maître.
Mmh.
Et je pense clairement que pour le chien, c'est moi, quoi. Donc, ouais, ça a aussi facilité le truc.
C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Je pense qu'il y a juste un podcast ou deux qui parlent de ce sujet-là, de la comment ça se passe lors des séparations, parce que tu vois plus l'animal que tu as vu grandir. Il peut y avoir ce manque. Moi, je sais que mon ex, en l'occurrence, il continue à m'envoyer des photos. Alors, c'est son chien, c'est plutôt le chien de ses parents. Mais comme lui, il allait voir ses parents très régulièrement et que moi, j'ai venu aussi dès que j'ai été présentée, je l'ai vu bébé, quoi. C'est un labrador noir, qui s'appelle Gaïa, et j'ai des photos d'elle où elle est sur mon ventre et tout, toute petite, et je l'ai vu grandir. Et c'est vrai que le jour où tu te dis, mais du coup, comme on n'est plus ensemble, je vais plus voir le chien. Franchement, j'en ai pas pleuré, mais j'étais pas loin.
Je peux comprendre.
Parce que lui, il a rien demandé, le chien. Lui, il s'adapte, hein, mais il a rien demandé. Et il y a eu des moments où, quand je suis descendue dans cette région-là avec des amis, parce que c'est pas loin du château de Chambord, franchement, je me suis posé la question, allez, viens, on fait un détour, on va voir le chien. Et tu fais quoi? Tu dis, ça va, ex-belle-maman, ça se passe bien? On peut voir le chien? Non, en fait, ça s'organise, ces trucs-là, et j'étais pas encore prête, forcément, à ce moment-là, à renouer des contacts. Donc, Donc, ouais, je pense que c'est important d'en parler, effectivement, que c'est toujours un petit déchirement aussi. Et je suis contente d'avoir des photos, de voir que, voilà, elle va bien. C'est une dame maintenant. Elle a son petit âge, quoi, mais elle va bien. Et bah, je sais pas si toi, ton ex a demandé à voir le chien aussi de temps en temps ou pas du tout.
Comme je comprends, en fait, que pour elle, c'est quand même dur. Je sépare, le chien, en fait, n'a rien à voir dans nos histoires. Mmh. C'est ce que j'essaye de me dire. Et moi, l'avantage, c'est que mon ancien beau-père, je l'aime d'une manière indescriptible. C'est un deuxième papa, tu vois, limite. J'aime vraiment cet homme. Lui m'a toujours dit, toi, tu viens quand tu veux. Il n'a pas de clan, en fait. Donc, c'est sa fille et il y a moi. Moi, je vais chez lui régulièrement. J'y vais tous les dimanches. C'est un rituel. On boit le café, on discute. Et en fait, l'avantage, du coup, de ce truc de relation encore avec l'ancien beau-père, d'amitié, puisque maintenant, c'est un ami. Mmh. Moi, de temps en temps, comme je sais qu'il a un jardin qui est sécurisé et que je lui fais confiance, il a aussi un chien qui s'entend très bien avec le mien. Deux fois, je le contacte et je lui dis, écoute, samedi, il fait beau. Je te dépose le fils chez toi. Mmh. Et comme ça, lui, de son côté, il peut dire à sa fille, j'ai le fils à la maison samedi. Et comme ça, elle peut aller chez son père et elle voit le chien, en fait.
Ok, c'est bien organisé.
En fait, je ne peux pas l'interdire de voir le chien. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais je peux comprendre. Elle l'a vu bébé, elle l'a aimé, son chien. Elle l'aime encore toujours, de toute façon, parce qu'un chien, quand tu l'aimes, c'est pour la vie. Mmh. Et je me dis, je ne peux pas lui retirer le chien. C'est pas parce qu'elle m'a fait du mal et qu'on s'est fait du mal et que c'est fini. Que voilà. Par contre, je ne mettrai pas le chien chez elle, par exemple. C'est pas une garde partagée. C'est mon chien que je t'autorise à voir parce que je sais que tu l'aimes et que bah ça serait dégueulasse de ma part de faire du chantage au chien ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais le chien, c'est pas une monnaie d'échange, c'est pas un objet. Mais parfois, si elle me le demande, je vais pas forcément accepter.
Tu mets tes limites. Comment ça se passe avec ton corps? Est-ce que tu te sens bien aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué, ton rapport à la musculation, tous ces trucs-là?
Alors, en fait, mon corps, c'est pas une histoire d'amour. J'ai toujours été quelqu'un de très complexé parce que je me trouve vraiment très maigre.
Ouais.
Donc après, c'est la perception qu'on a de soi-même. Et en fait, il y a une chose qui m'a aidé, c'est les tatouages. Peut-être que pour certains, ça paraît ridicule. Mais en gros, le fait d'avoir de magnifiques tatouages sur mon bras, parce que je les trouve vraiment très beaux, ça m'a aidé à me dire, bah ok, je suis maigre, etc. Mais j'ai quand même quelque chose sur moi de très joli. Et ça m'a aidé à me sentir mieux. Mais en fait, ce qui est traître, c'est que quand t'es en couple, je trouve, en tout cas c'était mon cas, tu trouves un peu plus beau. Du fait que d'avoir quelqu'un dans ta vie qui est là pour toi, avec qui tu te promènes, tu vis des choses, comme tu te sens désiré, forcément t'as une autre opinion de toi-même. Mais effectivement, à la rupture, je me suis senti vraiment moche, comme si j'étais moche en fait, inutile, trop maigre et machin. Et en fait, tu te rabaisses un peu toi-même. C'est comme si, en fait, t'as plus personne dans ta vie, t'es plus rien. Alors que c'est pas du tout le cas. Et je pense que c'est important de le dire aux gens. C'est pas parce qu'une personne te quitte que ça fait toi quelqu'un de moche ou quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de différent de ce que tu étais quand tu étais avec elle, en fait, au final. Et je pense qu'on se met des barrières nous-mêmes et on se détruit nous-mêmes, au final. La personne qui se détruit le plus, c'est pas la personne qui nous quitte, c'est nous-mêmes, je trouve.
Mais du coup, t'as fait comment pour te sentir mieux? T'as commencé à faire du sport?
Bah là, je suis toujours pas dans la phase où je me sens mieux. Mais je commence à faire du sport et je commence à essayer de m'accepter et à prendre du poids et à me dire, comme tu disais tout à l'heure, tu t'es défini comme quelqu'un étant grosse, par exemple. Et moi, je trouve ce terme péjoratif à la base, comme une insulte, en fait. Et le fait que toi, et j'ai notamment écouté ton épisode avec Marie de Brouwer, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Tout l'épisode, moi, au début, j'étais choqué parce que j'entendais grosse, 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 qui pour moi est une insulte. Et en fait, ce que vous faites, c'est très bien parce que d'une insulte, vous en faites une fierté ou une force, je ne sais pas comment appeler ça.
Ben oui, parce qu'en fait, c'est un adjectif. C'est quand tu dis hey, « j'ai reçu une grosse paye », et ben t'es content.
C'est ça. C'est tellement connoté insulte maintenant que moi, en fait, dans ma perception des choses, gros, c'était une insulte. Là, je suis dans le truc où, bah, notamment grâce à l'épisode que tu as fait, et je l'ai écouté avec attention énorme et tout, je me dis « les femmes dites grosses, vous plaisez à énormément d'hommes, comme les femmes dites maigres, qui plaisent à énormément d'hommes, comme les intermédiaires plaisent à énormément d'hommes. » Et pour les hommes, c'est pareil. Il y a des femmes qui vont aimer les hommes avec du ventre. En fait, je trouve qu'on est tous le beau de quelqu'un et on est tous le moche de quelqu'un. Et je trouve qu'il ne faut pas se prendre la tête. Donc, c'est une chose que je comprends, mais que je n'arrive pas encore à mettre en place. Je trouve que comprendre la chose et l'accepter, c'est deux paliers différents, je pense.
Donc là, aujourd'hui, tu ne dirais pas « je me sens bien, je me sens beau, je me sens attirant » et tout ça. Tu ne pourrais pas encore dire ces phrases-là?
Pas forcément, non. J'y travaille parce que moi, je trouve que mon arme de séduction principale, c'est l'humour. Je ne me suis jamais trouvé très attirant comme mec. De toute ma vie. Hein.
C'est sérieux, là.
Bah non, mais vraiment. Mais après, c'est une histoire de perception, c'est comme on dit.
En fait, tu te vois pas. Il y a un mot pour ça, c'est la dysmorphophobie. C'est que tu te vois pas comme nous, on te voit.
Certainement. Je saurais pas l'expliquer.
T'as pas creusé? Est-ce que t'as l'impression, peut-être, on t'a pas fait beaucoup de compliments quand t'étais petit? Je suis pas en train d'accuser tes parents. Mais des fois, tu sais, ça peut être même en classe. les enfants sont cruels entre eux. Et des fois, au contraire, il y en a, ils sont en adoration. Genre, ah, ils sont trop beaux tes yeux, tes cheveux, tes machins. T'as pas eu peut-être des trucs comme ça quand t'étais petit?
Non, je pense pas, parce que de mémoire, ma mère m'a toujours dit que j'étais le plus beau des garçons.
Ah, c'est bien.
Merci,
c'est bien.
Maman. Mais non, je sais pas d'où ça vient, mais vraiment, j'ai ce truc de, je complexe d'absolument plein de choses chez moi. J'aime pas mon sourire, je suis dans ce truc où j'ai vraiment du mal avec mon reflet.
Ah oui.
Mais encore une fois, c'est con à dire, parce qu'il y a plein de gens qui disent, ouais, t'exagères, parce que, mais c'est un truc qui se comprend pas, je pense.
T'as quand même lancé un TikTok où là, on voit, parce que t'aurais pu te cacher derrière et juste mettre ta voix et qu'on voit pas ton visage. Mais là, on te voit, on voit ton visage. Et donc là, t'es passé au-delà de ce complexe.
Je suis quelqu'un de très contradictoire. C'est-à-dire que si je parle de mon corps, par exemple, d'être maigre, je suis capable d'avoir de l'autodérision là-dessus. Donc, je peux en rire beaucoup. Ça me dérange pas qu'on rigole de ça sur moi.
Ouais.
Mais par contre, dans la perception que j'ai de moi, je peux pas te dire, OK, je suis beau gosse ou OK, je suis bien fou. Tu vois, j'ai ce truc de, bah, OK, je suis comme ça, j'ai pas le choix. Tu vois, j'ai du mal, mais j'ai pas le choix. Mais c'est contradictoire parce que effectivement, ce que tu dis, ouais, bah, quelqu'un qui se trouverait moche ne se lancerait pas sur TikTok, etc.
Il y a quand même des gens qui se lancent en se disant, je vais me lancer et puis on verra ce que les gens y disent. Mais en gros, ce qui est plus important, c'est ce que je dis moi, est-ce que je raconte, est-ce que je propose comme contenu. C'est pas spécialement mon visage ou quoi. Donc il y a des gens qui arrivent à passer ce cap-là parce qu'ils ont un propos à dire, quoi.
Mais en plus, moi, à la base, TikTok, je déteste. Mon ex-copine était tout le temps sur TikTok.
Okay.
Et je disais, mais c'est nul, ça n'a aucun intérêt TikTok, c'est vraiment nul, nul, nul. Et en fait, j'ai commencé peu de temps après la rupture et au début, je faisais des vidéos messages.
Ouais.
Où vraiment, je savais qu'elle allait regarder et je faisais des vidéos où je transmettais des petits messages et tout, des pics ou des trucs comme ça.
Mmh.
Et en fait, au final, j'ai fait une première vidéo avec ma vraie voix parce qu'au début, j'utilisais des sons TikTok et j'ai fait une vidéo avec ma vraie voix où je parle de choses qui me tiennent à cœur. Je sais plus c'était quoi le thème. Bah, c'était la rupture, mais je ne sais plus exactement ce que j'ai dit. Et en fait, dans les commentaires, je remarque que je suis pas le seul.
Mmh.
Et du coup, j'en fais une deuxième, j'en fais une troisième et je vois, ça fait des vues, il y a des commentaires et je me dis, putain, en fait, je suis pas tout seul et ça m'a motivé, en fait, de, tu sais, le fait de faire des vues, d'avoir des messages, d'avoir des abonnés, même si j'en ai pas beaucoup.
T'étais à 100 000, non?
La dernière fois que j'y suis allé, j'étais à 4900 quelque chose.
Ouais, bah, ça y est, t'as passé les 100 000, là.
Ah, bah, tu vois, je suis même pas au courant. Voilà, donc j'ai passé les 5 000. Mais c'était ce truc, en fait, c'est rassurant de se dire que t'es pas tout seul. Et comme je te disais, si une vidéo peut aider ne serait-ce qu'une personne, ben, on a tout gagné, en fait. Moi, les vidéos qui ont le mieux fonctionné, c'est quand, par exemple, il y a une vidéo qui a très bien marché où je dis que j'aime beaucoup les femmes tatouées.
Ouais.
Et en fait, le fait de cibler une catégorie de personnes, tu te rends compte que dans les commentaires, j'ai eu 1000 commentaires de femmes tatouées, tu vois.
Ouais.
C'est un exemple. Les vidéos où ça a bien fonctionné, c'est quand effectivement, je ciblais une catégorie de personnes, les femmes tatouées, etc. De toute façon, TikTok, ça a été aussi une histoire d'ego à un moment donné. Quand tu es dans la phase où tu te sens le plus moche de la Terre et ça fait plaisir, en fait, les messages que tu reçois de « ouais, t'es plutôt beau, machin ». C'est un truc à la con, hein, mais effectivement, ça fait du bien. Mais après, il y a ce truc qu'il faut se dire, c'est que les réseaux, c'est pas la vraie vie et qu'il faut pas non plus aller bien par rapport aux réseaux parce que ça se transmet pas dans la vraie vie. En fait, c'est pas une réalité. Il y a un écran, il y a ce côté virtuel, les personnes te voient pas en vrai. Peut-être que la personne, au moment où elle t'écrit, c'est quelqu'un qui est en détresse.
Je m'adresse aux personnes qui vont voir les vidéos de Flo. Vous allez peut-être voir les vidéos après avoir entendu cet épisode et vous allez vous dire, mais de quoi ça s'agit? Le mec, il est vraiment beau gosse, il a des yeux bleus de ouf, il a un très beau sourire. À quel moment un type pareil, il peut complexer? Je comprends pas le projet. Et ben, c'est ça le truc. On peut très bien avoir de vrais atouts physiquement et aussi en termes de personnalité. Mais on le voit pas, on les ressent pas comme ça en soi. Et le sujet, c'est si demain, t'as plein de gens qui te font plein de compliments, comme ça a été le cas sur TikTok. Toi, ça te fait ton petit boost d'ego, comme tu l'as dit. Mais pour autant, ça peut être éphémère et te dire, bon, bah, ouais, ok, j'ai eu plein de commentaires, mais ça veut pas dire que y en a une d'entre elles, de ces femmes qui m'ont fait des compliments. Bah, est-ce que ça va être la femme de ma vie? J'en sais rien. Peut-être c'est pas possible parce qu'elle habite à 5 heures de route. Donc, ça va pas t'apporter forcément le truc concret que toi, tu voudrais, à savoir un vrai projet de vie à deux, quoi.
Il y a ce truc où sur une vidéo, tu as plein de commentaires qui te disent, ouais, comme tu dis, beau garçon, machin et tout.
Mm-hmm.
Mais par exemple, moi, dans la vie de tous les jours, donc là, je te parle de la vraie vie, notamment bah, les fois où je sors, ou quand je fais mes courses, quand je vais au sport, vraiment les activités quotidiennes de mm-hmm. Monsieur Tout-le-Monde, j'ai pas l'impression qu'il y ait ce regard.
Mais peut-être que tu le vois pas, hein, parce que ça, j'ai eu plein de filles qui m'ont dit, mais moi... Vraiment, je regarde la personne, je lui fais des signaux, je lui fais des sourires, il voit rien. Il y a des mecs, ils voient rien.
Bah, ou alors, je vois rien. Peut-être ça. Mais en tout cas, oui, moi, j'ai pas l'impression. Vraiment pas l'impression.
Est-ce que tu es très observateur ou est-ce que quand tu es avec ton chien, par exemple, c'est normal, hein, tu te concentres aussi sur lui, sur les obstacles éventuellement qui pourraient arriver sur votre route, ou les gens qui viennent vous parler, parce que des fois, il y a des gens, ils aiment bien parler aux chiens aussi.
Non, mais moi, mon chien, il me fait vivre un enfer en promenade, hein, parce que moi, avec mon chien, et je te jure, c'est pas une exagération, je ne fais pas 100 mètres. Si je suis dans une ville, par exemple sur un marché, j'y vais plus, parce que tu fais pas 100 mètres, en fait. Tout le monde t'arrête. Pourquoi ? Parce que c'est Beethoven, et parce que c'est truc, et c'est truc, et quand il y a des enfants, c'est un enfer.
Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont demandé pourquoi il n'a pas un tonneau ou je sais pas quoi
Absolument tout le monde.
Ah ouais.
Première question, il est où son tonneau? Ou alors on me demande, est-ce que ça bave comme dans le film? La réponse est oui, évidemment.
Ça bave. Qu'est-ce qu'on fait avec la bave?
Ouais, c'est ça, c'est horrible. Vraiment, tu passes pas inaperçu avec un chien comme ça, c'est pas possible.
Les marchés, non, mais par contre, te balader dans la rue ou en forêt ou je sais pas quoi?
Absolument tout le temps. Mon chien, je le promène tout le temps.
Et là, il n'y a pas même quelqu'un qui aurait un chien aussi. Ça peut être des filles qui ont leur propre chien et il y a une balade et il y a une discute.
Non, ça m'est jamais arrivé.
Donc, tu penses que dans ton secteur, pour faire les rencontres, c'est essentiellement dans les sorties, dans les bars, les cafés, où vous dansez encore les jeunes, là? Vous allez dans des discothèques, ça existe encore ou pas?
Ouais, ça existe encore. Moi, je sors très peu. Et en plus, quand j'avais 5 ans de moins, j'étais entouré de célibataires dans mes amis. Donc, c'était simple de sortir. Mais j'ai 30 ans et je suis le seul célibataire du groupe. Donc, tout le monde a copine, enfant, etc., etc. Donc, c'est plus compliqué de sortir et sortir seul. J'ai pas le tempérament à sortir seul, en fait. Donc, les fois où je sors, c'est vraiment, sont exceptionnellement rares. Donc, c'est ça qui est compliqué, en fait, à l'heure actuelle. C'est que, s'il faut sortir pour rencontrer quelqu'un et que je suis pas dans la capacité de sortir, effectivement, ça pose un peu problème, quoi.
Mais juste aller prendre un verre, t'aurais pas ce plaisir-là, tu vois, et puis en plus, parfois, dans les bars, il y a des gens qui sont plutôt amicaux, tu vois, ils discutent un peu avec tout le monde.
J'ai pas ce truc d'aller dans un bar...
Seul.
Ça m'arrive de manger seul au restaurant, par exemple.
Ouais.
Ça me pose pas de problème.
Mm-hmm.
Je vais au cinéma seul aussi, par exemple.
Bah oui.
Il y a des choses que je fais très bien seul et que ça me pose pas de soucis, mais je me verrais pas aller dans un bar seul. Boire un verre seul, etc. Enfin, c'est pas spécialement un truc qui me mettrait à l'aise.
Par contre, le cinéma, c'est une expérience, effectivement, qui peut se faire seul et il y a pas mal de gens qui préfèrent y aller seul. Parce que les potes, soit ils sont pas dispo, il y a une organisation pas possible concernant les horaires, soit ils veulent pas voir les mêmes films, donc c'est une galère, ça sert à rien. Et soit il y a deux trucs, il y a les gens qui disent ouais mais on veut jamais être placé au même endroit au ciné, juste ça m'énerve. Donc voilà, il y a ceux qui veulent être au milieu, l'équipe qui veut être au premier rang, ce que j'appelle l'équipe de masochistes, hein. Et puis tu as aussi les gens, et ça je comprends, qui n'ont pas envie d'y aller avec quelqu'un parce que ils veulent être dans le film. Vivre le film et après être dans leur pensée après le film et se faire leur propre réflexion, alors qu'il y a des personnes, effectivement, quand tu les emmènes au ciné, le générique, il n'est pas terminé. Hein. On est encore dedans. Ils te font le débrief de « Mais attends, j'ai pas compris la première scène. Toi, t'as pensé quoi de ce plan-là ?» Je dis « Mais laisse-moi tranquille, je suis encore dedans. Laisse-moi atterrir. » Et donc, ça arrive qu'il y ait des personnes qui préfèrent y aller seules pour vivre le truc tranquille. Donc, potentiellement, quand tu vas au cinéma, il y a peut-être notamment des femmes qui vont aussi seules pour vivre le film, mais qui, une fois que tout est éteint, tu remets ton manteau. Franchement, moi, je suis la première à le faire. Hein. Tu fais un 360, hein. Tu regardes. Il y a qui ? Il y a des vieux, il y a des couples, il y a des gens tout seuls ou... Et des fois, il y a un petit regard, il y a un petit truc qui se passe quand on sort de la salle. Il faut être un petit peu observateur aussi.
J'essaie d'être attentif, alors. C'est promis. En plus, je vais tous les jours quasiment maintenant à la salle de sport et c'est vrai qu'il y a énormément de filles, par exemple, dans une salle de sport. Mais moi, j'ose pas trop regarder les gens. J'ai pas envie de passer pour un mec, tu vois, qui mate.
Pour un relou. Hein.
Pour le relou de service qui est là, qui mate, tu vois. Donc, à la limite, je suis plutôt effacé. Moi, à la salle de sport, j'ai casquette AirPod et je suis un peu dans mon coin.
Si la personne, elle vient te poser une question ou quoi, t'es d'accord?
Bah ouais, évidemment, évidemment. Mais de toute façon, salle de sport, il y a deux catégories de personnes, de filles, hein, je parle. Alors, il y a celles qui sont, je vais pas aimer ce que je vais dire, mais j'ai pas le choix. Presque pas habillés, on va dire, très court, machin,
okay.
Et qui veulent qu'on les regarde.
Elles se sentent à l'aise dans cette tenue-là ou tu penses qu'elles veulent attirer des regards particuliers?
Bah, ça, j'en sais rien, justement, mais c'est pas une fille comme ça sur qui je vais me retourner, en fait.
Okay.
Et il y a les autres catégories de femmes qui sont au contraire très fermées. Dans tu sens au visage, elles sont pas là pour autre chose. Donc, il y a soit une catégorie qui m'intéresse pas forcément, soit une catégorie qui a l'air complètement fermée à une autre idée d'eux. Genre, elles viennent faire leur sport et me fait pas chier. Et du coup, t'es un peu entre les deux. Et comme je te dis, couplé au truc de j'ose pas regarder les gens parce que pas passer pour un relou, ça fait beaucoup de facteurs qui font que potentiellement, pour venir m'aborder ou moi aller aborder, bah, il y a plein de cases qui sont pas cochées, quoi.
Bon, après, la salle de sport, c'est un lieu assez particulier. Et c'est vrai qu'il y a tellement de filles qui se sont fait emmerder dans les salles de sport. Maintenant, il y a pas mal d'établissements qui font très attention à ça parce qu'ils perdent des clientes, hein, tout simplement. Moi, je pars du principe que une personne qui est là pour faire son sport, tu l'emmerdes pas. Maintenant, il peut y avoir un échange de regards poli, bonjour, bonsoir, et puis c'est tout. Après, de dire qu'il n'y a aucune femme qui est ouverte à des rencontres éventuelles dans une salle de sport, c'est pas vrai. Donc là, je fais une dédicace à Mégane, qui a pécho, je sais pas combien de personnes, mais en particulier un ou deux. Et maintenant, elle est en couple, elle a pas rencontré dans une salle de sport, elle est en couple, alors bébé, tout se passe bien. Mais dans sa période de célibat, elle faisait beaucoup de sport et notamment des machines, là, les trucs. Et ben, oui, elle a pécho là-bas, en allant d'abord pour le sport. Mais elle disait, je reste ouverte à d'éventuelles discussions. S'il y a quelqu'un qui m'intéresse, et elle va aller au contact, ou elle va faire, alors Mégane, elle a une technique qui est, en plus, elle est toute mimi, mais elle a une technique qui est très simple. Elle te fait un sourire, ses yeux de biche, c'est bon, c'est réglé.
Et ben voilà, je donne la technique. Faites-moi un sourire avec des yeux de biche. Envoyez des signaux, mettez les flashs sur vos téléphones.
Je pense qu'il faut vraiment y aller avec beaucoup d'insistance parfois avec certains hommes parce qu'ils ne voient pas. Franchement, tout ce qui est subtilité, arrêtez les filles. Hein. Franchement, la subtilité, ça ne marche pas. Hein, genre,
franchement, ouais, je suis d'accord.
Non, juste essayer d'être clair. Par exemple, faire un beau compliment déjà sur par exemple, une fille qui vient te voir en te disant qu'elle trouve que tu as un très joli regard, de très beaux yeux. Déjà, tu peux te dire, ah tiens, peut-être je lui plais un petit peu quand même.
Bah oui, voilà, par exemple, on lance un appel.
Tu serais prêt à faire des rencontres ou il te faut encore un petit peu de temps?
Là, comme je te disais, je suis dans la phase où vraiment là, je pense vivre une vraie rupture. Donc, parce qu'il y a une phrase, je sais pas si tu vas être d'accord, mais il faut être heureux avec soi-même avant d'être heureux avec quelqu'un d'autre.
Ouais, c'est mieux.
Je sais pas si c'est une phrase bateau ou si c'est une réalité, mais j'aimerais être vraiment dans ce truc où je me sens bien déjà moi, avant de me lancer dans autre chose, quoi.
Et si on devait faire pas un appel, mais c'est quoi ton type de femme?
Moi, j'ai pas de truc, tu sais, cheveux blonds, cheveux noirs, tu vois, ça, je m'en fous.
Ouais.
Après, moi, j'aime bien qu'elle soit plus petite que moi.
Ouais, mais ça va.
Je sais pas l'expliquer. Et les formes, ça me dérange pas du tout. J'aime même assez ça. Mais après, j'ai pas de type de corps particulier.
C'est juste des courbes, c'est pas forcément une femme grosse.
Comment tu définis grosse, en fait? C'est ça le truc que moi, j'arrive pas à...
On est en France, hein, donc la femme grosse, d'après la France, c'est une femme qui est au-delà du 44-46. Donc, c'est quelqu'un qui, en fonction de sa taille, évidemment, mais si c'est quelqu'un qui... mettons qu'elle fasse 1m60, 1m65, qui est la moyenne des femmes en France, parce qu'on est petite, et ben si la femme elle fait 70 kilos déjà, elle est considérée comme bien pulpeuse, parce qu'une femme de 1m60, on va considérer qu'elle doit faire entre 50, 55 kilos, c'est l'IMC de merde là qui correspond à rien. Si elle fait 70, elle est déjà bien pulpeuse et même ronde, et grosse si elle veut utiliser ce terme-là. Et puis au-delà, moi par exemple, je ne cache pas mon poids, moi je suis 1m60 pour 88 kilos, 86 quand je suis stressée, et du coup, je suis considérée comme une femme grosse et en obésité, d'après les médecins. Je suis à l'aise avec ça, mais il y a des personnes qui vont te dire ça c'est un cap qui est trop important pour moi. Il y a des hommes sur des applications de rencontre, ils m'ont dit moi quelqu'un qui fait plus de 70 kilos, c'est mon poids à moi, je peux pas. Je dis ok, salut quoi, c'est pas grave. Toi tu vas peut-être pas mettre une limite de poids, ça va être en fonction de la personne, de sa morphologie.
Moi je me pose pas la question du poids. Si je refais le cycle de ma vie un peu intime des dernières années, j'ai eu un peu de tout. Moi par exemple, tu mets en face de moi la femme la plus belle de la terre.
Ouais.
Si elle a aucune conversation, si elle est un peu pète-cul, mais d'office, c'est éliminatoire, en fait. Alors, peut-être une femme un peu moins jolie, mais plus simple, qui a de l'humour, de la conversation, va plus me plaire, en fait.
Ouais, il faut qu'il y ait quand même cet échange-là, sinon, ça marche pas.
Au minimum, quoi. Notamment pour aller plus loin que le truc d'un soir. Parce qu'un physique, au final, ça évolue au fil des années. Dans 40 ans, on sera tous dans le même état. Donc, si tu te bases à ça pour construire une relation, d'office, t'es mort, en fait.
Le rapport à TikTok et aux réseaux sociaux, donc il y a quelques temps, tu as décidé de tout couper. Pourquoi ?
Il y a un film que tu m'as conseillé, que j'ai regardé, c'est Yannick.
Ouais, c'est trop bien Yannick.
Et je vais te résumer en gros ce que je ressens par une phrase du film. À un moment donné, il dit « Je pensais être bien en venant ici, mais là, j'ai carrément l'impression que c'est l'inverse. »
Ouais.
Et en fait, moi, j'étais à fond réseaux sociaux tout le temps, TikTok, et les faire les vidéos, je publie à midi, à 19h pour qu'il y ait plus de réactions, machin. Instagram, je mettais des stories un peu drôles où quand par exemple, je ratais un plot, c'était cramé, je le mettais, des vidéos, machin. Et je pensais que ça me faisait du bien, mais en fait, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu te caches derrière une réalité qui n'est pas exacte. Et en fait, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Ça m'empêche d'avancer, de me cacher derrière des faux semblants. Et du coup, j'ai décidé de faire un essai Et je me suis donné un délai où j'ai vraiment supprimé tout. J'ai plus Instagram, j'ai plus Snapchat, j'ai plus Facebook, j'ai plus rien, pour voir ce que ça me procure comme sensation. Est-ce que ça va me faire du bien ou au contraire, est-ce que ça va me faire encore plus de mal? J'ai besoin de relativiser sur mon rapport avec les réseaux sociaux. J'ai besoin de voir justement en quoi c'est nécessaire à ma vie. Est-ce que c'est quelque chose de positif, de négatif? Sur les réseaux, tu te mets pas en compétition avec les autres, mais tu as toujours ce truc de tu vois la vie des gens et systématiquement, tu la compares à la tienne. Et c'est un truc qui est très mauvais, je trouve. En tout cas, moi, ça me faisait pas vraiment du bien. Et je me suis dit, je vais m'enlever de tout ça, me concentrer un peu sur moi et voir ce que ça donne de nouveau dans ma vie, en fait.
Et là, ça fait quelques semaines déjà. Comment tu te sens?
Ça va. Alors, c'est très compliqué. Il y a ce truc de, bah, les réseaux sociaux, ça te prend du temps. Moi, ça m'arrivait des fois, je passe une heure et demie, tu scrolles comme un con sur Instagram et TikTok. Et du coup, là, j'ai plus ça. Donc, en fait, je dois trouver des moyens de m'occuper. Donc, déjà, t'es seul chez toi. T'as plus ce truc de, ça t'occupe l'esprit. Donc, tu dois occuper ton temps différemment. C'est ce qui me permet aussi de libérer du temps pour faire du sport. Je vais plus voir ma famille aussi, par exemple. J'ai pris un livre. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire Game of Thrones, par exemple. Donc, j'essaye de lire. J'essaie de regarder un peu des documentaires et compagnie. Je fais plus de promenades avec mon chien, par exemple. Pour l'instant, c'est positif. Il y a ce côté quand même où parfois, je passe une journée quasiment entière, j'ai aucune notif. Donc, il y a aussi cet effet négatif de on vit un peu à travers nos téléphones au final. Et je suis passé d'un mec qui mettait des vidéos sur TikTok et sur Instagram où je publiais pas mal en story, où j'avais des réponses. Je suis passé d'un mec qui avait des centaines de notifs par jour, des dizaines, à d'un coup, c'est comme si t'étais inexistant. Alors que c'est faux. Parce qu'il y a encore ma famille qui m'envoie des messages, j'ai encore mes amis, mais tu sais, ça reste minime. Et il y a des fois où je suis deux jours sans notification et je me dis, putain. Donc ça amplifie la solitude. Enfin, de toute façon, quand t'es sur les réseaux, t'es quand même seul. T'as beau avoir des notifs, si t'es seul, t'es seul.
En pleine réflexion, pour l'instant, tu vois un peu le positif, le négatif, et puis une forme d'addiction qu'on a un peu tous. Je pense que le téléphone, c'est comme un prolongement de la main, quoi.
Ben, c'est clairement ça. Et en plus, là, je suis dans le truc où je me dis, c'est quoi le mieux d'avoir 5 notifs par jour de gens qui t'aiment vraiment, des notifs dites importantes, ou est-ce que c'est mieux d'en avoir 150? C'est des messages chez des gens qui s'en foutent, entre guillemets, de toi, et c'est juste une réaction à une story ou un message ou un commentaire. Et après, ça passe à autre chose et tu n'as plus d'importance, tu vois. C'est quoi une notification au final? Je suis un peu dans la phase où je fais le pour, le contre, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et...
Bah, sauf si tu avais envie d'en faire quelque chose de professionnel, tu vois, les gens qui deviennent influenceurs ou je sais pas quoi, ou qui vendent quelque chose, ces réseaux-là font partie de leur outil de travail, en fait.
C'est clair, mais moi, je suis pas dans ce truc. Même TikTok, ça n'a jamais eu pour but d'être connu ou d'être riche. J'ai jamais fait de live, par exemple. Je suis pas dans ce truc de gagner de l'argent avec TikTok. Ça n'a jamais été mon but, en fait.
Okay.
Donc, j'ai pas ce côté, je veux être influenceur, je veux être connu. J'y vois pas d'intérêt personnel.
Et t'as pas pensé, bon là, c'est peut-être moi, mon réflexe de communicante, mais puisque tu vas à la salle un peu plus souvent, il y en a, ils se lancent dans des vidéos, défis, challenge, voilà, je commence une étape, je sais pas où ça va me mener, mais j'aimerais bien avancer sur la forme physique que j'ai actuellement et j'aimerais arriver à ça dans, je sais pas, 3 mois, 6 mois.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, ouais. C'est vrai. Non, moi, ça me... Mon cousin, il a un TikTok où il fait ça, justement, parce qu'il est musclé, il est coach, etc. Il me dit, prends-toi en photo en caleçon maintenant devant le miroir.
Ouais.
Et dans 3 mois, tu te reprends en photo devant le même miroir, dans la même posture, pour que tu aies un comparatif. Je suis incapable de prendre cette photo déjà à l'heure actuelle.
Ah ouais, mais même pour toi, juste que personne ne la verra, il n'y a que toi qui la verras.
Bah oui, mais même, en fait, je me dis, avoir ça dans mon téléphone, pour moi, c'est pas pensable, en fait. Et du coup, déjà, tu sens déjà qu'à la base, il y a un problème. Il y a pas longtemps, tu m'as envoyé une photo de moi, parce que comme j'ai des tatouages, je l'ai montré. Ouais. Et tu vois, rien que cette photo, c'est parce qu'il y a le tatouage que je l'ai mis.
Mais elle est trop belle.
Tu vois, c'était vraiment pour montrer le tatouage, mais une photo comme ça, si j'ai pas mon tatouage à montrer, jamais je poste.
Je décris un peu pour les auditeurs, auditrices. C'est une photo où on voit le tatouage, c'est sur le bras gauche, je crois. Et donc, y a le tatouage qui prend une bonne partie du bras, pour qu'on le voit bien. Du coup, t'as pas relevé un t-shirt ou quoi, t'es torse nu. On voit aussi les pectoraux, enfin, tu vois. Et je crois qu'on voit même un petit peu le début du, peut-être du ventre ou des abdos, enfin, je sais pas. Enfin, ça descend un peu.
Ouais, c'est possible, ouais.
Bon, ou alors c'est mon imagination, mais bref.
Non, mais je pense que t'as raison. Je pense que t'as raison.
Eh ben, franchement, c'est une photo. Comment dire les mots sans choquer personne? Bon, après, c'est mon podcast. Hein. Franchement, c'est une photo qui est très excitante. Parce que c'est beau. Ce qu'on voit, c'est beau. Enfin, ça donne envie de toucher, déjà. Et puis, okay. On voit que t'as un petit peu de poils. Après, il y a des gens, ils aiment pas les poils sur le torse. En
fait. Ça y est, j'en ai plus, là.
Ah, t'as enlevé? Parce que tu préférais?
Oui, j'aime pas, moi, de base.
Ok. Tu vas apprendre qu'il y a plein de filles qui préfèrent. Après, il faut que toi, tu te sentes bien avec ton corps, évidemment. Mais
ouais, c'est ça, ouais.
La sensation des doigts dans la toison, c'est super doux, c'est très agréable. Après, tu fais comme tu sens. Mais la photo, franchement, je défie quiconque de la voir et de... Ah ouais, elle était super. Et même toi, tu te trouves bien dessus ou tu te trouves bien parce qu'il y a le tatouage?
Le tatouage, c'est incroyable. J'en ai même parlé à mon tatoueur d'ailleurs. Quand je l'ai remercié, je lui dis putain, depuis que j'ai le tatouage, je me sens beaucoup mieux. Parce qu'au final, t'as la sensation que les gens regardent ça et plus toi. Et par exemple, quand je fais des tatouages, moi, je le fais en convention. À la fin des conventions, il y a un concours.
D'accord.
Et par exemple, moi, il m'a tatoué donc le bras gauche sur une convention et tu passes sur une scène. Et moi, je le fais pour mon tatoueur parce qu'au final, je l'apprécie énormément et on se parle bien. À passer des heures avec quelqu'un à discuter, tu crées quand même un petit lien.
Mmh.
Et donc, du coup, moi, j'ai accepté de participer à ce concours. Donc, j'étais sur la scène. Mais par exemple, mon t-shirt, je ne l'enlève pas.
Ouais.
Je le laisse sur le côté pour essayer de cacher au maximum parce que c'est un truc qui me rend très mal à l'aise. Mais tu le fais parce que tu sais que les gens vont regarder le tatouage et pas ta personne, en fait. Le tatouage, ça aide.
T'as eu que des compliments sur ce tatouage ou t'as eu des gens qui ont trouvé ça trop gros ou, parce que des fois, les gens, ils font des commentaires hein, qui sont pas sollicités.
Alors, hein. Ça dépend les âges. Parce que le tatouage, est-ce que c'est pas générationnel aussi un peu? Parce que moi, en général, les gens, à partir d'un certain âge, regardent mon tatouage en disant « Ah, c'est un tatouage un peu… c'est des crânes, c'est un peu gore pour certaines personnes, c'est un peu sombre. » Ma mère déteste, par exemple.
Ah ouais?
Oui, ma mère déteste parce que, en gros, c'est son bébé qui a un crâne sur le bras. Elle a du mal un peu avec ça.
Et il y a des filles qui ont pu voir tes tatouages dans l'intimité?
Oui, parce que moi, au final, ils sont très visibles, mes tatouages. Souvent, on les trouve très beaux. En fait, je te dis, c'est question de génération, mais souvent, ceux de mon âge ou plus jeune, mes tatouages, je les trouve très beaux. En fait, tu peux pas nier qu'ils sont bien réalisés, quoi. Souvent, on me pose des questions. Pourquoi t'as fait ci? Pourquoi il y a ça? Mais non, souvent, ça passe.
Mais t'as pas eu une partenaire ou je sais pas, en expansion, je sais pas comment tu dis, mais qui regarde ça, mais de façon, tu sais, genre fascinée, quoi. Genre, c'est pas qu'elle te regarde plus, toi.
Non, j'ai pas eu l'impression. Après, c'est possible, hein, parce que je sais que, moi, par exemple, les femmes tatouées, moi, je trouve ça incroyable. C'est magnifique. J'aime bien les conventions de tatouage, mais pour moi, c'est le paradis, en fait. Moi, j'adore. Après, une femme sans tatouage, c'est très beau aussi. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, quoi.
Bah, là, dans les conventions, du coup, tu peux discuter plus facilement avec des gens, je pense.
Ouais, convention, c'est assez ouvert, ouais.
Et t'as pu faire des rencontres là-bas ou...
Non, jamais. Franchement, je suis un peu triste, mais j'ai pas de choses à raconter.
On fait pas les choses pour faire des rencontres. On les fait parce qu'on a envie de les faire.
Ah oui, c'est clair. Quand tu te fais tatouer, clairement, t'es pas là pour ça et personne t'aborde quand t'es en train de souffrir et que t'as un visage déformé parce que t'as mal dans ton coin. Oui. Non, ça m'est jamais arrivé.
Pour l'instant. Assure. Bah écoute, merci beaucoup Florian.
Non, merci à toi.
On se retrouve donc bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez écouter celui-ci sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Coucou aux Québécois, à toute la francophonie. Vous pouvez aussi mettre des notes, des étoiles. Ça permet au podcast de remonter dans les classements. Et vous pouvez aussi donner des sous sur Tipeee. Ça permet de payer la prise de son, le montage et l'hébergement de ce podcast. Merci et à très bientôt.